Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, cette semaine consacrée au Grand Prix de Hongrie. Oui, qui a vu la première victoire de Lewis chez Mercedes. Et pourtant, c'est peut-être pas le truc qu'on va le plus retenir de ce week-end, n'est-ce pas Dino?
Déjà, je retiens que tu es de retour, Shady.
Oui.
Welcome back.
Oui.
J'ai souffert, Shady, sans toi.
Non, mais là, ça va filer droit, là. Les RER qui passent dans les podcasts, non.
C'est une thématique du train en ce moment. On s'est dit, on va rester dedans.
Et Dino, nous ne sommes pas seuls.
C'est vrai, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Steve ce soir qui va nous accompagner pour ce SAV du Grand Prix, du magnifique Grand Prix de Hongrie.
Eh ben, salut.
Bonsoir, Steve.
Bonsoir, Steve.
Bonsoir, Tido, Shady.
Alors messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix ?
Eh ben, c'était pas mal. Il y a eu quand même pas mal de suspense, différents niveaux du classement d'ailleurs, et de belles passes d'armes. Même si au final, il n'y a plus tant de dépassements que ça. Hein.
Faute d'avoir essayé.
Et oui. Le championnat, oui, le championnat se referme un peu moins, on va dire. Il s'ouvre un peu plus.
Ouais. C'est presque une victoire surprise, on s'attendait pas quand même à ce que les Wiz gagnent.
La pole est déjà surprise, et surtout la victoire, je pense. Hein.
Je crois que Lewis, à la radio, à la fin de la course, a dit « Quoi, j'ai gagné ? » Vous êtes sûr ? Je fais pas un tour.
C'est pas vrai.
Vérifiez les mecs, je suis sûr qu'il y a une couille à un moment donné. Il y a dû avoir un petit quart ou... Et toi, Shinji, qu'as-tu pensé de ce Grand Prix ?
C'était un bon Grand Prix de Hongrie, un bon Grand Prix de F1 avec tout ce qu'est la F1, de l'action, des décisions polémiques, de la politique, enfin voilà quoi.
Ne me lance pas, Julie, ne me lance pas.
Des rumeurs de paddock.
Oh oui.
Oh, si peu. Il y a mieux que les rumeurs de paddock. Il y a les communiqués du lundi matin.
Oh oui.
En forme d'anniversaire en plus.
Ouais. Fernando, joyeux anniversaire, mais ta gueule.
Voilà, c'est ça. C'est l'anniversaire du SAV.
On l'oublie, hein, le rouge c'est aussi la couleur du sang. Messieurs, ce dimanche nous étions le 28 juillet.
Ah, ouais, oh.
Ah bah oui, hein.
C'est pas possible.
Tu pensais quand même pas que j'y avais pas pensé.
Bah, je me suis dit que deux émissions sans participer, tu aurais peut-être pris le temps de la réflexion. tu serais peut-être dit en écoutant le SAV, tiens, c'était pas mal, un SAV sans éphémérite inutile et tout, c'est pas. Et en fait, non. Non, voilà, non.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphémérite de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Alors messieurs, le chiffre de la semaine, c'est le chiffre 65 000.
65 000 personnes ?
Non.
C'est le nombre de places que va reculer Romain Grosjean lors du prochain Grand Prix.
Alors ça sera plus, donc ça n'est pas le chiffre du jour.
C'est le nombre de points qu'il aura en moins sur son permis dès le début de la saison prochaine ?
Non, parce que là encore, ce sera plus, donc c'est pas le chiffre de la semaine.
C'est une somme d'argent
Ce n'est pas de l'argent.
Non.
C'est une somme.
C'est une somme de quelque chose, à l'unité ?
Oui, il y a une unité derrière, oui.
Une unité de temps ?
Non, pas de temps.
Une unité physique ?
Oui, enfin...
Distance,
ouais, voilà,
poids,
oui,
masse oui.
Distance.
Des mètres ?
Non. Des kilomètres.
65 000 kilomètres. Ça me dit quelque chose.
C'est possible.
C'est plus qu'un tour de la Terre, déjà.
Bah, c'est même...
Un tour et demi, ou un tour trois quarts.
Ouais.
65 000... Est-ce que c'est un truc, justement, spatial, dans le sens système solaire ? Non.
Alors, c'est quelque chose qui aura lieu dans ce système solaire, ça, je peux vous le dire.
Ah. Hein.
Mais pas dans l'espace.
Est-ce que c'est une distance cumulée de plusieurs événements ?
C'est une distance cumulée, mais on peut pas dire de plusieurs événements.
Cumulé par une seule personne ?
Non.
Ah non. Un relais alors ?
Tout à fait.
C'est quelque chose qui s'est passé ce week-end ?
Alors non, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé ce week-end. Le 28 juillet, quand c'est arrivé le jour de sa création, c'était zéro. Mais là, ça va être 65 000.
Donc c'est des kilomètres. Hein.
C'est des kilomètres.
C'est chaque année, le 28 juillet, il y a...
C'est
on
pas
rajoute
présent.
Des kilomètres.
Ah, le 28 juillet, c'est la création du...
Oui,
de
voilà,
l'objet.
De ouais, ce qu'on cherche.
Et... Est-ce que c'est un truc qui se mange ?
Ah non.
J'aurais pensé à tous les Mars accumulés, alignés depuis la création.
Non.
Tous les bars Mars.
C'est peut-être même encore plus.
Oui, je crois bien, oui.
Attends, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se cumule au fur et à mesure des
non.
années.
Non, c'est arrivé plusieurs fois, et la prochaine fois, ça sera 65 000.
Mais c'est arrivé plusieurs fois, c'est-à-dire des centaines de fois, des milliers ou des dizaines?
Des dizaines de fois.
Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui roule, une machine comme une voiture ou des kilomètres?
Parfois, ça
non
peut rouler, mais pas tout le temps, et même pas le plus souvent. C'est le principe.
C'est pas un truc fait pour rouler.
Non.
Donc... Attends, ce qui m'étonne, c'est tout à l'heure, tu as dit au début quand ça a commencé, c'était
oui,
zéro.
La première fois que ça a eu lieu lors de sa création le 28 juillet, c'était zéro. La prochaine fois que ça,
c'est
la
pas
prochaine
le...
fois que ça arrivera, c'est 65 000.
C'est le plus long vol sans escale?
Ce n'est pas un vol sans escale.
Ou un vol,
pas une question de...
aviatif, c'est pas un...
Ça peut, parfois, il y a des kilomètres en avion, mais là encore, c'est pas le cœur même de ce qu'on cherche. C'est dingue, je pensais que ça serait beaucoup plus simple.
Est-ce que ça rapporte avec les avions?
Non, pas spécialement.
La première fois, la première fois quand ça faisait zéro kilomètre, c'était au 20e siècle?
Oui.
La deuxième partie du 20e siècle?
Non, première partie.
Première partie, ça faisait zéro kilomètre.
Est-ce que il y a un humain qui participe
pour
les 65
oui,
kilomètres?
Et même pas qu'un seul.
Et il y a autre chose que des gens.
Il peut y avoir autre chose que des gens, mais la majorité c'est des gens.
Ou
l'essentiel c'est des gens quand même, le plus souvent.
C'est la somme des routes en France?
Non.
Les autoroutes?
La première fois que c'est arrivé, c'était le 28 juillet 1928.
Les lignes de téléphone?
Non.
Ça m'intrigue, ça.
Il y a quand même un déplacement.
Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un déplacement, mais au début, c'était 0
oui
km. C'est 0 km.
Donc,
0 mètre ou c'était moins de 1 km?
Bah, 0 en fait. Il n'y avait pas de trajet. C'est venu après.
Ah, donc, le 65 000, c'est le même objet que le truc qui était à 0. C'est un truc qu'on a déplacé puis qui a fait 65 000 km.
Ça n'est pas.
Non,
alors, c'est la même chose sans être de fait la même chose.
Oula.
C'est de pire en pire, cette
honnête. C'est n'importe quoi.
Marco, reviens.
Oui, je suis là. Est-ce que c'est en Europe?
Ça commence
non
tout le temps en Europe, mais ça n'est pas qu'en Europe.
Attends, ça commence en Europe.
Est-ce que par exemple, demain, on peut participer à ce chiffre de kilomètres?
Peut-être que ça pourra vous arriver dans la vie, mais pas demain.
Il vaut.
Pour m'y connaître un peu dans le sujet, si jamais vous aviez une possibilité, ça serait sans doute pas à échéance avant 10 ans. D'avoir une possibilité, ça veut pas dire que vous pouvez.
Donc c'est quelque chose qui nécessite une préparation.
Ah oui, oui.
C'est une construction? Non.
Non, on peut pas dire que c'est une construction.
C'est une collection? Une accumulation?
Non.
Et 65 000 km, c'est à l'horizontale?
La plupart du... Oui.
c'est sur une route.
C'est sur des routes, oui.
C'est une course.
C'est pas vraiment une course. Il y en a qu'un à chaque
c'est
fois.
Quelque chose qui... Il y en a qu'un.
Ah, il y a qu'un participant.
La papa mobile.
Enfin, c'est pas toujours le même, mais il y a toujours qu'une personne.
Est-ce participant, on le connaît?
Parfois, les participants sont connus, mais parfois non.
Parfois
souvent,
non.
Même non.
Mais à chaque, j'arrive pas à comprendre, c'est que à chaque fois, c'est la même distance.
Non. C'est-à-dire que régulièrement, ça se répète, et à chaque fois, la distance est différente. La prochaine fois, la distance sera de 65 000.
Ah, c'est pas le cumul de tout ce qu'il y a
non
eu.
Non.
Ah, parfois, la distance, ça sera de 65 000 km. Oui. Fait par une seule personne.
Non, par plusieurs personnes.
Vous avez dit que j'étais tout seul?
Mais parce que c'est un relais.
Ah, c'est un relais.
Ah, mais oui. J'ai compte.
65 000, mais c'est énorme. Est-ce que Lewis Hamilton y a participé?
Oui, et en même temps, si tu...
L'année dernière où il y a...
En même temps, si tu as pigé, tu comprends que c'est aussi un peu normal que ça soit 65 000.
Je suis en train de chercher alors. T'es en train de mettre le doute. 65 000. Attends, la prochaine
un
fois...
Un nombre de tours.
Attends, la prochaine fois...
Pour toi, la prochaine fois, c'est dans combien de temps?
Bah, dans... soit l'année prochaine, soit dans 2 ans.
Un peu plus, mais... si c'est dans quelques mois, tu devrais comprendre pourquoi c'est 65 000.
Ah bah non.
Si tu sais où c'est...
C'est le relais de la flamme des Jeux Olympiques.
Oui.
Ah, putain, ça me rassure. Donc j'ai bon, déjà.
Oui, déjà, t'as bon.
Et pourquoi c'est 65 000?
Bah, c'est où Sochi? C'est dans quel pays?
Sochi?
Bah, en Russie.
Bah oui.
Le tour
bah
de la
oui,
Russie.
Bah, si tu fais le tour de la Russie, ça fait un paquet de kilomètres.
Ah, c'est pour ça, 65 000.
Mais oui! C'est tout con, pourquoi 65 000? Bah, parce que c'est en Russie, patate.
Ça y est, monsieur part deux semaines en vacances, il revient une traite de patates.
Mais non,
espèce de poulet là. Artichaut.
Le
merguez.
Le prochain relais de la flamme qui partira de Grèce, donc en effet ça part tout le temps d'Europe, fera 65 000 km et sera d'ailleurs le plus long relais de la flamme de l'histoire des Jeux d'hiver. Pourquoi ? Ben parce que c'est en Russie et que forcément la flamme elle va aller de Moscou jusqu'à Vladivostok en faisant le tour de la Russie.
Chaque fois ça se passe que dans le pays hôte ou
Alors, dans 90% des cas c'est dans le pays hôte. Il y a eu que deux fois où vraiment ils ont fait des relais internationaux. Et donc, en effet, c'est l'anniversaire de la flamme olympique qui a été allumée pour la première fois le 28 juillet 1928 pour les Jeux Olympiques d'été à Amsterdam. Mais il n'y avait pas de relais. Donc, c'est pour ça que c'était zéro, parce qu'il n'y avait pas de relais à l'époque.
Ah bah oui.
Le relais olympique, il a été créé durant des courses de relais de justement de torches qui n'ont jamais eu lieu lors des Jeux dits olympiques. Hein, il y a eu d'autres disciplines sportives en antiquité, mais jamais dans les Jeux olympiques. Et c'est une invention de 1936.
Ah, intéressant.
Oui. Une idée qui a été retenue par Goebbels. Et oui.
Ah,
et oui. Voilà. Hein, donc il y en a qui disent que faudrait. Ah, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire le relais de la flamme et tout ça? Parce que, à la base, c'était quand même un peu une glorification, hein, du Reich allemand. Bon.
Ouais. Pas les Mercedes avant qu'à Russie.
Ouais, non, mais voilà. Enfin, si tu pars comme ça, après,
Les V2,
on va arrêter d'acheter des Audi. Oui.
Donc.
Bah, moi, j'ai déjà arrêté.
Moi, j'ai jamais commencé.
Voilà, c'est ça.
Mais la dernière fois, j'étais dans le concessionnaire, on dit, il y avait une petite R8 Le Mans. Je me suis dit, ah, putain. Et en fait, je me suis dit, oh non, je vais rester avec ma Clio. Trop nostalgique.
Et donc, la flamme olympique, elle vient d'une tradition de la Grèce antique où un feu sacré brûlait en permanence dans les sanctuaires et lors des Jeux antiques, une flamme brûlait en permanence près des sites sportifs. Et alors, vous savez comment elle est allumée, cette flamme?
Ils utilisent le soleil, non?
Voilà, la flamme olympique donc est allumée au cours d'une cérémonie par des femmes jouant le rôle de prêtresse d'Héra, vêtues de tuniques similaires à celles portées par les Grecs de l'Antiquité. La cérémonie se déroule plusieurs mois avant le début des Jeux, sur les ruines du temple d'Héra à Olympie, à l'aide de rayons de soleil concentrés par un miroir parabolique.
Sauf s'il pleut.
Oui, alors dans ces cas-là, quand il pleut, ils le font quelques jours avant.
Ah oui.
Et donc c'est un truc qu'ils ont remis en place quand même au 20e et 21e siècle, mais c'est un truc style antique. Hein. Alors ensuite, la flamme est emmenée au stade panathénaïque, donc qui est ce stade en U qui a accueilli les premiers Jeux rénovés en 1896. Il y a aussi eu des épreuves en 2004, stade assez typique, on peut voir plein de photos.
Ouais, je crois qu'ils ont fait
le marathon, du marathon et du tir à l'arc, si je me souviens bien, en 2004. Et donc ensuite, donc il y a un relais. La plupart du temps, c'est directement de Grèce au pays et le relais se fait dans le pays. Mais en effet, il est arrivé qu'il y ait des relais mondiaux. Hein. Donc normalement, au niveau des relais, c'est 1 km ou 1 mile par personne. Donc ça peut. 2012, je crois qu'il y avait 8000 porteurs de torches sur tout le Royaume-Uni, dont Lewis Hamilton, en effet, il l'a porté. Alors parfois il y a une seule torche et parfois il y a une torche pour chaque porteur. Et par exemple en 2012, chaque porteur pouvait racheter sa torche. Hein. Et certains l'ont même revendu sur eBay, 150 000 $.
Comme les calendriers Pirelli.
Le passage de la flamme olympique a parfois été l'occasion de manifestations un peu politiques. Hein. On se souvient notamment de 2008, qui avait été très agité. Après ce relais de la flamme en 2008 qu'ils ont dit on veut plus de relais de flamme internationaux, parce que bien évidemment c'était la faute au fait que ça soit international, pas du tout parce que c'était la Chine.
Oui, non.
Alors notez qu'au jeu d'hiver, la flamme olympique n'existe que depuis 1952, donc il y a quand même un sacré écart entre les deux, et qu'à cette occasion, en 52, c'est pas d'Olympique qu'elle est partie, mais de Norvège, dans la maison de Sondre Norheim, qui est notamment l'inventeur du ski télémark. Sinon, habituellement, c'est d'Olympie.
C'est une flamme qui est forgée directement dans le foyer du Père Noël.
Peut-être, tu sais.
Oh, oh, oh.
Alors, il y a eu quelques transports remarquables. Par exemple, en 76, la flamme olympique a été transformée en signal radio qui a été transmis depuis Athènes jusqu'au Canada. Et le signal radio vient un rayon laser à rallumer la flamme. Parce que le principe, évidemment, c'est que la flamme ne s'éteint jamais. Et d'ailleurs, les rares cas où la flamme est éteinte, savoir qu'il y a à côté une flamme de secours... Pour la ramener.
Mais même déjà, enfin, les flambeaux aujourd'hui sont étudiés quasiment pour ne jamais s'éteindre.
Mais au cas où, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, il y a une flamme de
Je me rappelle pour les Jeux Olympiques de Londres, avoir vu un reportage où il y avait des mecs qui faisaient des simulations de tentatives
d'extinction de la flamme. Et donc voilà, il y avait une espèce de formation qui était faite pour voilà comment intervenir dans ce genre de cas, parce que c'est vrai que c'est régulièrement qu'on il y a des gens qui essayent de d'éteindre la flamme.
En 2000, elle a visité la Grande Barrière de Corail, hein, puisque c'était du côté de Sydney les Jeux. Elle a aussi pris du canoë, un chameau, le Concorde. En 2008, elle est montée jusqu'au sommet de l'Everest.
Ça peut être un peu
la flamme olympique, ouais, quand même un peu. Et donc les fameuses torches, hein, elles sont designées, hein, par des créateurs. Hein. Par exemple, hein, les designers de Londres 2012 ont présenté des lignes moyenâgeuses sous une alliance d'aluminium doré criblé de 8000 cercles découpés au laser, symbolisant à la fois les anneaux olympiques et les 8000 relayeurs qui se succèdent feu au point jusqu'à l'ouverture officielle des Jeux le 27 juillet. Ça de Londres, c'est la râpe à fromage. Et quand tu vois une photo de la torche, en effet, j'ai la même râpe à la maison. Et attention, elle a été testée dans la soufflerie d'usine BMW.
Oh la vache.
Ouais. Comme tu vois, tu disais, toi, ils font des tests et tout, elle passe en soufflerie.
Elle est pas passée chez Ferrari. Ah,
bah là, on apprend, elle s'est jamais éteinte. Mais si je me trompe pas, d'ailleurs, c'est cette année, enfin, lors des Jeux de Londres, elle s'est éteinte. Ils ont dû l'éteindre.
Alors, il y a eu pour 2012, il y a eu une extinction accidentelle pendant un des relais, mais bon.
Non mais je parle après, que pendant les jeux.
Ah oui.
Dans le stade, ils ont été obligés de l'éteindre.
Oui, parce que vous vous souvenez de la scène où cette espèce de bouquet de fleurs, en effet, qui était au milieu. En effet, ils l'ont éteinte pour déplacer la vasque. Qui était, et en effet, après, on voyait bien qu'elle était décalée, parce que sinon, elle aurait été au milieu de la piste d'athlétisme, la flamme olympique.
Moi, je dis sincèrement, il y avait l'idée, quoi.
Et donc, le prochain relais olympique, qui commencera le 7 octobre de cette année, fera 65 000 kilomètres.
Et l'intégralité du parcours sera faite par Vladimir Poutine.
Ah, c'est possible, parce que c'est Vladimir Poutine. Voilà.
Là, t'as Superman, et au-dessus, t'as Vladimir.
J'ai parlé de deux relais internationaux, hein, donc c'est 2004 et 2008. 2004, donc c'était un relais qui commençait en Grèce. Ensuite, ils ont fait un relais international avec toutes les villes qui avaient accueilli les Jeux par le passé, avant de revenir en Grèce. Et il y avait celui de Pékin, où là, c'était plus le tour des grandes villes du monde. Et alors, sinon, en F1, on peut noter, c'était l'anniversaire dimanche de Yannick Dalmas, qui n'a pas spécialement fait une grande carrière en Formule 1.
S'en fout, c'est le lendemain qui compte.
Mais qui, par contre, a gagné quand même 4 fois Le Mans. Hein.
Oui.
Dans 4 équipes différentes, je crois.
Sincèrement, c'est pas énorme.
Il y a mieux, mais c'est pas mal.
Ouais.
Hein. C'est quand même pas mal.
Donc, je crois qu'il a gagné sur Porsche, Peugeot, BMW, et j'en oublie une. Mais il a gagné 4 fois sur 4 équipes différentes.
Ça, c'est balèze. C'est mieux que certains qui gagnent 9 fois avec la même équipe.
C'est comme Fangio.
Ou presque. Ouais. Ouais, voilà, comme Fangio qui a été champion avec 3 ou 4 constructeurs différents, je crois.
Donc, par contre, apparemment, qu'il ne roule plus. J'ai cherché des traces pour voir et apparemment, il n'est plus dans la compétition directe, Yannick Dalmas. Donc voilà, c'était tout pour l'éphéméride.
C'est un bien bel éphéméride, Fiji, bravo.
Même si je sais que vous auriez préféré que je parle du éphéméride du 29 juillet, mais bon.
Bah c'était mieux, quoi. Un petit décalage horaire, ça nous aurait arrangé.
Ouais, ouais.
Ça nous aurait permis de dire un bon anniversaire à
Tout
Ben.
Tout à fait. Alors Dino, on va passer à l'heure de gloire de l'invité.
Oui, attention, hein, cette semaine, c'est l'heure de gloire. C'est pas les 3h27 de gloire. D'ailleurs, oui. Pour ceux qui ne vont pas sur le site du SAV pour écouter l'émission chapitrée, vous n'avez rien raté, puisque les chapitres, c'est, je crois que c'est introduction, après c'est le coup du ta gueule, et après c'est l'heure de gloire de Margot Lafitte, et conclusion. Donc il y a 4 chapitres, dont un qui fait dans les 2h30. Donc voilà.
Voilà.
Donc Steve, tu le sais, hein, tu y as déjà participé. C'est il y a quelle émission que t'es venu l'an dernier?
C'était Grand Prix d'Allemagne.
Ah, un Grand Prix pourri.
Ah non.
Ouais, sincèrement, le souvenir que j'en ai, c'était pas un Grand Prix terrible. C'était qui avait gagné?
Mais si, c'était Alonso.
Ah ouais, non mais.
Si, c'était bien. Non, la course c'était.
Moi, tu sais, Alonso, j'en reviens.
Je crois qu'on va tous en revenir dans pas longtemps, je crois.
Donc c'est le moment où on va te questionner un peu sur l'actu. Tu connais le truc, pour les auditeurs qui nous découvriraient. On va commencer par le...
Pour, pas pour.
Donc je vais te poser 10 questions auxquelles tu répondras par pour, pas pour. Et à la fin, tu pourras revenir sur 3 sujets de ton choix et tu seras obligé de revenir sur un sujet obligatoire. Le circuit de Hongrie, naturellement, on est obligé. Hein.
Oui.
Non, je t'ai épargné cette question-là. Donc quand tu es prêt, tu me dis je suis prêt. Et moi je suis prêt, donc je te dis on y va.
Je suis prêt.
Alors, pour ou pas pour, le retour du Grand Prix d'Autriche?
Pour.
Pour ou pas pour que Nico Hülkenberg quitte Sauber dès le prochain Grand Prix?
Pas pour.
Pour ou pas pour l'arrivée de James Allison chez Ferrari dès septembre?
Pour.
Pour ou pas pour les roadshows?
Pour.
Pour ou pas pour la rénovation annoncée du circuit d'Interlagos pour 2014?
Pour.
Pour ou pas pour Fernando Alonso chez Red Bull en 2014?
Pas pour.
Pour ou pas pour aller de Budapest à Spa à l'arrière d'une biplace pilotée par Zolt Baumgartner?
Pour. Ça mettra du temps.
Pour ou pas pour l'annulation du Grand Prix d'Inde 2014?
Pas pour.
Pour ou pas pour la fermeture estivale des usines?
Pour.
Et enfin, pour ou pas pour la F1 sur Canal+.
Pour, mais pas pour moi.
Donc, premier sujet, hein, pour ou pas pour moi, pourquoi?
Parce que je trouve l'abonnement quand même assez cher pour uniquement les Grands Prix. Et du
mais
coup,
non,
Non,
tu payes pas l'abonnement pour les Grands Prix.
Bah dans mon cas ce serait ça donc.
Oui mais après si tu consommes l'abonnement n'importe comment aussi c'est normal.
Non mais bon c'est je pense pas être le seul en plus mais c'est.
Oui mais c'est un cap difficile quand même.
C'est un cap difficile pour les fans de F1 cette année n'empêche hein. J'ai croisé beaucoup de gens qui regardaient même plus hein, maintenant. Qui regardaient assidûment avant et puis bon.
On est entre nous comme fans.
Non, moi je regarde en anglais, ça me suffit.
En anglais, il y a quelqu'un qui diffuse en anglais en France, mais qui...
Non, je vais en Angleterre, samedi matin je pars en Angleterre.
C'est par le câble,
regarder,
c'est
reviens. Par le câble. Voilà, le câble sous la manche.
Non, le câble qui est entre ta prise téléphonique et ta box ADSL.
C'est ça. Bon, sinon on revient sur quoi alors?
Ce que tu veux.
Qu'est-ce qu'il y avait en pour bah, l'Autriche, moi pour moi une course en Europe de plus, c'est quand même quelque chose de rare déjà, qu'il faut s'y aller. Et si ça peut permettre de faire moins de voyages aux écuries au global pour le même nombre de courses,
moins de voyages en
Corée,
c'est mieux
pour tout le monde. Oui voilà, ça fait moins loin, c'est mieux.
En Inde. Bah, déjà moins de voyages en Inde.
En Inde, ça fait de la place dans les bagages. Mais puis bon, maintenant on voit que l'Autriche quand même prend de plus en plus de poids en Formule 1, donc c'est que la suite logique du.
Non mais c'est un retour quand même. L'Autriche on l'oublie, mais c'est une grande nation de la Formule 1. Il y a quand même de mémoire deux champions autrichiens, Lauda et oui. Rindt. À ça s'ajoutent des vainqueurs de Grand Prix. On peut penser à Berger. Ouais. S'ajoute aujourd'hui une écurie qui est championne du monde.
Plus le Grand Prix.
Un sponsor oui. qui est là depuis 15 ans. Le Grand Prix qui est quand même historiquement un Grand Prix de Formule 1.
Enfin voilà, 70.
Après, il faut voir sur le circuit. Moi, c'est un circuit que j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus le grand circuit d'Autriche. Bah, l'Österreichring qu'on a connu à une époque.
Il est court et étroit, hein, quand même.
Ouais, ça va être sympa.
Les tours, ça va faire moins d'une 10.
Alors, non. Romain Grosjean, si tu nous écoutes, retiens bien ce mot. Il est étroit. Étroit. Voilà. Il faut attention au virage 1, au virage 3.
Mais ça,
virage, en fait.
Mais le Grand Prix, c'est l'année prochaine. Qui dit qu'il y sera?
Oh, c'est petit.
Non.
Oh, c'est petit.
Non, c'est étroit.
C'est pas faux, mais.
Oh, bah écoute. Non, mais il y sera, parce que de toute façon, il faudrait bien qu'un des deux reste chez Lotus. Donc.
Oui, donc il y sera.
Oui, donc a priori. Il va partir.
A priori, oui.
Il va aller chez Ferrari. Kimi Raikkonen, le retour chez Ferrari.
Ah, ce serait énorme.
J'en rêve pas, mais quand même, j'aimerais bien voir ça. Donc ensuite, est-ce que tu as un deuxième sujet sur lequel tu voudrais revenir?
Ben, il y a l'Inde, justement, comme on parlait des Grands Prix. C'est quand même... Il y en a eu deux courses là-bas, hein, c'est ça? Oui, deux.
Ouais.
Et, c'est vraiment le symptôme des Grands Prix nouveaux qui s'installent pas, qui ont des...
Attention, il est juste
ben,
reporté.
J'ai vu qu'il n'y en aurait pas en 2014, j'ai
oui,
vu là,
il
tout
est
à l'heure.
En fait, il est reporté parce qu'il passera en 2015, mais en début de saison.
Ah ouais, ah, j'ai pas vu.
Sans doute entre Chine et Bahreïn. Et donc ils disent que c'est aussi pour ça, c'est pour éviter qu'il y ait Grand Prix d'Inde à moins de 6 mois. Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Mais bien sûr. Comment ils ont fait la Chine en 2006, je crois.
La Chine.
Non,
la Chine.
Non, même pas. C'est même fin 2006, c'est 2008.
Fin 2007. C'est
fin 2007. Début 2008. Revenu en 2008.
Moins de taxes, ça aide.
Fin 2008, il était la Chine quand Hamilton avait gagné. Et début 2009. Ouais, je crois.
Ah,
parce que ça avait plus en 2009, je crois.
Et bon après il y a la Malaisie aussi qui a fait le même trajet. Il y a
l'Australie aussi avant.
Enfin, voilà.
C'était en fin de saison. Mais c'était il y a longtemps.
Oui, il y a 20 ans. Il y a 20 ans.
Ben, on peut revenir sur la rumeur sinon.
La rumeur.
Qui n'en est pas une. C'est comment il s'appelle le pilote déjà? Je sais plus. C'est un jeune. Enfin jeune.
Ayazo ou Ayuso
Alezo.
Alezo, ouais, c'est ça, c'est Alezo. Francesco Alezo, je crois. Fernando. Attends, c'est Fernando Alezo. Alonso. Ah oui, non, c'est Fernando Alonso, voilà. Ouais, il n'a pas un avenir en Formule 1. Là.
Non, mais là, c'était l'exemple typique du. Comment dire, du buzz monté de toutes pièces par les journalistes. Parce qu'en fait, c'était pour le fils de Carlos Sainz.
Ça, c'est ce que dit
la réunion. Enfin, apparemment.
C'est ce qu'ils disent.
À la base.
Voilà. Voilà.
Parce qu'apparemment, le manager d'Alonso, il représente aussi Carlos Sainz Junior. Et donc, c'était un entretien, mais ils ont probablement parlé d'Alonso aussi. Ça se fait couramment. On a eu des discussions.
Après, on peut pas dire que ce soit un buzz fait par les journalistes, parce qu'il y a quand même des déclarations du personnel de chez Red Bull. Qui s'amuse un peu à jouer aussi sur rendez-vous en disant quand t'as Christian Horner qui dit bah oui au début on avait deux pistes et puis c'est il y a toujours des surprises des fois on
découvre qu'il y a d'autres pistes. Mais c'est pour faire bouger Raikkonen ça.
Mais il y a enfin, voilà, tout il y a Red Bull qui prend plaisir à faire chier Ferrari.
Non, mais c'est surtout, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit monté toute pièce par les journalistes.
Ah non, j'ai pas dit ça.
Les journalistes,
ils ont fait monter la sauce
non,
à partir
c'est
de
même,
la
c'est
réunion.
Même pas les journalistes qui ont fait monter la sauce. Les journalistes, ils disent, voilà, il y a un rendez-vous entre le manager d'Alonso et l'écurie Red Bull, qui plus est sur un grand prix. La première question, c'est de se dire, est-ce que ça n'a pas un rapport avec Alonso? Donc, au début, ils posent une question. Donc, du coup, il y a des questions qui sont posées aux différentes personnes impliquées, et c'est à ce moment-là que Red Bull, qui est très malin et qui saisit l'opportunité, s'amuse aussi un petit peu à dire il y a des
guerre,
opportunités,
quoi.
Compagnie. Voilà, c'est pour le coup, les journalistes, j'ai envie de dire, les journalistes, ils font que suivre ce que leur dit Red Bull et participer à ce jeu-là, même si très vite.
Mais de là, on sait très bien que de toute façon, sauf je ne sais quoi, c'est, l'année prochaine, Alonso sera chez Ferrari, de toute façon.
Oui, ça
c'est. À 99,9%.
C'est même Helmut Marko qui a dit que il a un contrat en béton, voilà. Tout le monde sait très bien qu'il y a aucune clause de sortie.
En plus, il est ferme 2015, non, je crois, son
contrat. Normalement, c'est 2016. Alors moi, c'est de mémoire.
Il est ferme 2015, puis 2016, s'il n'a pas de titre ou je ne sais quoi, il peut partir, je pense. Mais bon, c'est vrai que, bon, après, quand je lisais les journalistes qui font monter le buzz, c'est quand je lis Coup de tonnerre, Alonso, pour parler
de
Red Bull.
Ah non, oui, non, là, oui.
C'est quand même aller vite en besogne, quoi. C'est ça, que, surtout que je voulais souligner, c'est l'enjolivement du truc, quoi. Non, mais sinon, c'est de bonne guerre dans le paddock. Puis là, tout est en train de se jouer entre Raikkonen, justement, Ferrari, avec Montezemolo. Tout est relié au Lotus aussi. Les déclarations de Boulier, les déclarations de Raikkonen, de Horner, de Ricardo, aussi de Verne.
Ça tombe quand même dans un week-end où on a Ferrari, par exemple, qui a, pour moi, cédé à un caprice d'Alonso qui était de vouloir se concentrer sur la qualification. On en passait tout le week-end à dire « on se concentre sur la qualification ». Ce qui est purement une réponse aux exigences d'Alonso qui en a marre de se qualifier 5e, 6e, 7e. Il veut être devant. Et donc, voilà, ils ont, à un moment donné, ils ont cédé, même si ça n'avait strictement aucun intérêt de se concentrer sur la qualif. Enfin, ils vont pas devenir bons d'un coup, en un week-end, parce qu'ils se concentrent sur la qualif. C'est pas le problème de Ferrari. C'est le problème de Ferrari, il est ailleurs. Fallait mieux travailler sur les aspects solides de la voiture, donc la course. Et donc là, ils ont essayé de travailler sur les qualifs. Donc, déjà, il y a ça. En plus, s'ajoute le fait qu'Alonso a des déclarations après le week-end, en disant « je suis content d'être en vacances, pour mon anniversaire, j'aimerais qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la voiture et compagnie. » Voilà. Donc, voilà, il y a la visite chez Red Bull. Enfin, tout ça, c'est un petit contexte qui me laisse aussi à penser que du côté d'Alonso, c'est aussi, c'est-à-dire que quand je dis que c'est monté par Red Bull, la mayonnaise, elle est aussi montée par Alonso, la photo du repas avec Red Bull, avec Marc Weber en début de saison, c'était du même acabit, c'est extrêmement politique. Bien sûr. Moi, j'ai du mal à considérer que ce soit pas non plus un acte politique d'envoyer le manager chez Red Bull en plein week-end de Formule 1, même si c'est pour parler de Carlos Sainz Jr.
Oui, mais c'est pas anodin, oui, bien sûr.
Voilà, c'est pas anodin, et qu'il y a un message d'Alonso qui colle au discours, et on ras-le-bol d'Alonso.
C'est calculé, hein. Après,
si ça prouve un truc, c'est surtout que ça va super mal chez Ferrari en ce moment.
Disons que on sent un malaise quand même depuis Monaco, hein, presque.
On sent une équipe qui est à bout de solutions.
Ouais, là, ils sont.
C'est-à-dire que à la fois techniquement, à la fois du côté du pilote, depuis 4 ans, il y a rien qui passe, quoi. Il y a rien qui se fait.
Il y a une certaine lassitude aussi. Hein. Parce que quand on lit les déclarations, on a l'impression qu'il y a 2 ans ou 3 ans, on disait les mêmes.
Oui. Ouais. Ça commence même à être de pire en pire parce que bon, il y avait Red Bull en face d'eux, puis parfois McLaren. Oui. Mais là, quand tu commences à voir Alpine aussi Mercedes, quand tu commences à voir aussi Lotus, là, ça commence à faire beaucoup, quoi.
Mmh. Et heureusement qu'il n'y a pas McLaren. Donc, hein. Ouais, cette année, ça fait non. Parce que sinon, il serait huitième.
Bah non.
Mais...
Ah oui, non, Alonso serait
huitième. Oui, Alonso serait huitième, oui, quand même. La situation est grave, mais pas désespéré. Hein, hein. Mais là, on sent que ce Grand Prix, justement, la Hongrie, il y a souvent des tractations encore en coulisses pour les transferts, les contrats, les trucs, et que on sent même que la course, c'est pratiquement un truc d'appoint, quoi, à côté. Tellement ça discute aux coulisses.
C'est-à-dire que là, pour le coup, on arrive vraiment dans de l'actu F1. Depuis le début de l'année, on parle que des pneus Pirelli. Oui. Là, on a un peu mis ça derrière, donc le reste se
met
un
peu... cette saison-là où les
transferts, un peu en marche.
Là, il y a vraiment les discussions.
Oui, voilà. En Hongrie et puis en Italie aussi, les annonces, souvent. Ouais.
C'est bizarre, c'est généralement autour d'Italie. Il y a toujours un truc autour d'Italie qui fait qu'il y a des annonces.
Bah, c'est la fin de la saison européenne.
Ouais. C'est les
contrats quand ils annoncent aussi
le Grand Prix de Ferrari.
Oui, aussi. Ferrari quoi?
Ouais, cette petite équipe italienne. Je vois Minardi, c'est un peu plus grand.
Ah oui.
C'est plus rouge aussi. Et donc ça nous fait deux sujets. Tu peux revenir sur un troisième sujet de ton choix, si tu t'en rappelles.
Il y avait les Grands Prix, il y avait Hülkenberg, en cours de saison, je pense que c'est jamais bon de quitter une écurie comme ça.
C'était la rumeur avant le Grand Prix de Hongrie, que ce serait le dernier Grand Prix d'Hülkenberg, chez Sauber.
Mais lui, il change tous les ans, puis maintenant c'est tous les 6 mois, quoi.
Mais attends, il paraît qu'il est venu, il lui manque des paiements de Force India, donc...
Hülkenberg, Sauber, je sais pas, apparemment ça a l'air d'aller, leur situation s'améliorerait.
On commence à voir les suites. Ce qui est peut-être pas rassurant pour Sauber, c'est qu'on dit que Monisha Kaltenborn pourrait passer à la trappe avec la nouvelle organisation.
Ça va changer
et c'est plutôt quelqu'un qui, je trouve, a fait du bien à Sauber, même si financièrement, y a des difficultés. Mais Sauber a toujours été une équipe très modeste. Mais en termes de fonctionnement, c'est quelqu'un qui était bien dans cette équipe. Donc là, on peut s'inquiéter de se dire qu'est-ce qu'il y aura après. Parce que c'est quand même celle qui devait succéder à Peter Sauber, qui va se retrouver à la tête de l'écurie en espérant que ce soit quelqu'un qui connaisse au moins un peu la Formule 1.
Ça fait un peu comme Jordan à la fin, l'écurie, ça va changer de main. Et finalement, il y avait eu Force India qui avait
été racheté par Midland, puis Spyker.
Quand on se souvient où étaient Spyker et Force India au début, maintenant, ils sont quand même bien installés.
Sur les dernières années, c'est une belle progression.
Voilà. Donc après, Sauber, ils auront peut-être un moment un peu plus dur, et puis ça ira, je pense, mieux après. Hein. Avec quel pilote, ça? C'est trop encore pour moi.
Il n'y aura pas Sirotkin lors des essais cette saison. C'était dans les tuyaux, mais Sauber a dit non, qu'il ne ferait pas rouler Sirotkin en essai libre 1. C'est bien, c'est une sage décision.
De toute façon, les essais libre 1...
Parce que là, autant appeler directement Mick Schumacher, c'est pas chier. Donc ensuite, dans cette heure de gloire de l'invité, quel est l'actu ces dernières semaines dont tu n'as rien eu à foutre?
Eh ben justement, c'était tout le rabdam autour de Sirotkin, justement, qu'il a jamais essayé de Formule 1 et on en parle déjà au départ de Melbourne, quoi. Donc ça me paraît quand même un peu, comment dire, je trompe pas mes mots. C'est des informations qui ont peu de sens à l'heure d'aujourd'hui, quoi.
C'est-à-dire qu'elles ont peu de sens. Oui, quand on juge l'information. Oui. Maintenant, le fait, c'est que mine de rien, c'est un nom qui a été jeté, qui a été clairement dit. En 2014, il va rouler avec Sauber. Et là, pour le coup, c'est pas une spéculation ou rien. C'est les mecs qui ont investi dans Sauber l'ont dit. Donc à partir de là, c'est une interrogation qui fait débat.
Oui, voilà, c'est le... Est-ce qu'il est trop jeune? Est-ce que quand c'est qu'il va faire des essais, etc.
Donc au contraire, quelle actualité en dehors des Grands Prix aimerais-tu lire dans les prochaines semaines? Je sais pas au contraire d'ailleurs, parce que c'est une autre question.
Les transferts, ça compte?
Les transferts, est-ce que ça compte? Oui, ça peut compter, oui.
Eh ben, j'aimerais bien lire Werner Schreddi, mais j'ai dit j'aimerais bien, je sais pas dire je lirai. Mais non,
non, là tu diras pas. Non,
là, il va falloir un serial killer dans le paddock là, pour que ça arrive.
Oui, il va falloir. Sincèrement, je crois qu'il va falloir décimer le paddock. Je crois qu'en ce moment, Red Bull, ils ont l'air plutôt partant pour mettre n'importe qui sauf leur pilote.
Oui, c'est vrai.
Accessoirement, on veut bien réfléchir à Ricciardo. On lui a fait faire deux jours d'essai. Bon, peut-être.
Pour lui faire croire que. À Raikkonen, de toute façon, c'est. C'est fait, hein, on fait le fait.
C'est pas... Ah, c'est toi, sur Boom.
Non, non, c'est pas moi. Eh oh. Non, mais c'est quand même bien engagé, quoi. Puis, comme Alonso chez Ferrari, il y a quand même beaucoup de rumeurs qu'ils officialisent en septembre. Là, ça va faire pareil. Hein.
Bah, là, normalement, on devrait rapidement savoir.
Je sais pas si c'est cette semaine ou peut-être à Spa.
Eric Bouly a dit début août.
Ah oui.
Début août, il y aura une décision de faire. Maintenant, est-ce que la décision sera communiquée début août?
Eh, souviens-toi, Grosjean, il devait être confirmé dans la semaine. On a attendu 2 mois pour...
Oui, oui, c'est vrai.
Ben, je pense que là, par vite, contre, ils ont envie de savoir vite. Parce qu'après, ils pourraient peut-être dire à Alonso, tu sais, Fernando...
Après tout, l'équipe, tu la connais un peu.
Reviens à la maison. Non, mais après, il pourrait y avoir une annonce à Spa, c'est pour un éventuel transfert de Kimi Räikkönen, on peut pas...
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est un peu son Grand Prix d'Italie à lui.
Bah, la Hongrie, c'est un peu le Grand Prix de Finlande aussi.
C'est vrai.
Avec beaucoup de supporters finlandais là-bas.
C'est pour ça qu'ils ont rien annoncé là, parce que ça risque les meutes. On ne fait pas d'annonce importante quand il y a du supporter finlandais, les gars. On l'a déjà dit les précédentes saisons, on n'annonce rien quand il y a du finlandais dans les tribunes. Le finlandais ravage les tribunes. Il ravage déjà les Formule 1 quand ils sont dedans. Ou les voitures de WRC.
Mais il les répare.
Et les arbres.
Tu le sais.
Oui,
un petit coucou à Thomas qui nous a envoyé un mail avec des photos de WRC du rallye de France. Avec Kimi en train de réparer sa WRC. Parce que forcément, il passe plus de temps à la réparer qu'à rouler avec.
C'est l'avantage avec la Lotus, c'est qu'il a besoin de la réparer. C'est très rare quand il la répare. Il a peut-être dû prêter ses outils à Romain. Ah, Romain, j'ai une visseuse Black & Decker, je m'en sers pas, je te la prête si tu veux. Fais-en bon usage.
Est-ce qu'il aurait fallu ça à un mètre pour passer la chicane correctement?
Et donc, au contraire, quelle actualité toujours en dehors des Grands Prix n'aimerais-tu pas lire dans les prochaines semaines?
Le Grand Prix de Corée confirmé pour 10 ans.
Oui, c'est...
Ah, ça, c'est
ça. Ça a l'air mal barré. Faut bien le dire.
Oui, donc ça devrait...
Ça serait bon, quand même. Ah là, plus le Grand Prix.
Oui, pas la Hongrie.
Par contre, la Hongrie, ils ont
rempli. 2020, t'es content?
Ah, oui. Bah là, je suis heureux.
Mais ça doit être le Grand Prix où qui va le plus loin là en contrat, non?
Bah, attends, le Grand Prix.
Parce que non, mais de ce qu'on sait,
la Grande-Bretagne, c'est long. Ça.
Oui, la Grande-Bretagne. Je crois que la Chine aussi, ils ont un contrat sur 10 ans. Abu Dhabi, ça doit être un contrat du même acabit. Singapour, c'est pareil. Quoique Singapour
c'est 5 ans.
Singapour c'est peut-être plus court. Après il y a je crois que c'est New York qui a un contrat sur 10 ans aussi.
Et Brésil aussi je crois,
le Brésil
oui,
aussi.
2020,
maintenant c'est des contrats assez longs maintenant.
Il y a que Monaco
aujourd'hui, Bernie veut surtout assurer.
Mais Monaco, ça se trouve c'est marqué pour l'éternité. Ad vitam
Macam.
Il y a écrit pour l'éternité, mais on fera semblant de négocier de temps en temps.
Tant qu'il y aura assez de place pour faire passer les voitures entre les mises.
Monaco, ils ont un contrat de 3 jours. Qui renouvelle tous les ans.
4.
Non, 4. 4.
Oui, non, mais parce que vous comptez le vendredi. Non, mais Monaco, ils comptent pas. Ça fait une journée de moins. Ça paye moins dans le contrat. Et donc, enfin, est-ce que tu as un drive-thru, Steve?
Du week-end.
Du week-end ou de manière générale.
J'avais deux idées hier, mais elles m'ont sorti de la tête. Elles me sont sorties de la tête. Un drive-through.
Est-ce que tu veux qu'on te donne les nôtres de temps en temps?
D'accord.
Oui, comment c'est?
Shinji, tu as un drive-through?
Oui, j'en ai un. En même temps, quand on cherche bien, il y a du choix cette semaine.
Oui.
Non.
Je sens que ça va être une spéciale.
Écoute. Ce n'est peut-être pas forcément ce que tu penses, mais ce n'est pas éloigné. C'est les journalistes de Canal+. Ils sont sur la grille et qui vont voir Romain Grosjean. Alors Romain, vous avez une chance de gagner cette semaine, hein. Vous avez une chance de gagner quand même, hein. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de Français qui a gagné, hein. Donc vous avez avez quand même une sacrée chance de gagner.
Vous avez pas encore gagné de Grand Prix.
C'est surtout la question des tourelles, c'est dites Romain, ce matin Nathalie Berton s'est imposée, on a entendu une Marseillaise. Est-ce que vous avez envie qu'on entende une Marseillaise? Allons, connard.
Donc c'est bien, il faisait chaud, mais en plus il y avait beaucoup de pression sur Grosjean.
Oui, non mais c'est vrai, c'est terrible ça.
Ça m'a énervé, c'est
terrible. Et ça c'est un truc bien français, je crois.
Je pense
je sais pas trop dans les autres pays, c'est comme
Dans les autres pays, après, c'est difficile parce que bon, tu prends les principaux médias qu'on pourrait suivre, c'est les médias britanniques. Oui. Est-ce qu'en ce moment, ils sont plutôt bien. Il faut quand même se rappeler de la pression qu'il y avait sur Lewis Hamilton dans ses débuts chez McLaren, où en plus, ils ont vu un Britannique qui pouvait gagner.
Où ça faisait longtemps,
il a quand même fallu 7
grands prix qu'il avait pas.
Voilà, il y avait une folie.
Entre Hamilton, guillemets, il fallait 7 grands prix pour attendre qu'il gagne. Et à chaque grand prix, on lui demandait, mais
vous avez une McLaren quand même, hein.
Et Button, il y a eu le droit avant. Enfin, voilà. Enfin, c'est, je pense que c'est aussi lié au fait que, que quand t'as pas le champion, il y en a un qui est peinard pour ça, c'est Vettel. On va pas lui dire, bon, Vettel, c'est quand tu vas gagner.
On n'a jamais entendu l'hymne allemand. C'est pour quand?
Écoute, ça faisait à peu près, trois grands prix qu'on n'avait pas entendu.
Ça fait trois jours qu'on n'a pas entendu. Allez, vas-y.
Oui. Non, il y en a un qu'on commence à saouler avec ça, c'est Alonso. Ah, tu m'étonnes. Dites Fernando, ça fait longtemps qu'un pilote espagnol ne s'est pas imposé.
Pas vu qu'il y a que lui, de toute façon. Je veux faire directement lui.
Alors, mais Alonso, il préfère se concentrer sur les Legos.
Oui. Il y a du boulot encore.
Magie de life.
Ouais. Bah, de la Rosa, faut pas qu'il gagne une fois aussi. Pour la confiance.
Ouais, voilà, ouais.
Il l'a laissé pour avoir confiance. Mais je crois qu'il avait autre chose en tête, Alonso, quand il a vu un petit papier avec des petites lignes, il s'est dit, ah, mon contrat.
J'ai un contrat. Je vais aller vérifier ton Red Bull si j'ai un contrat. Dis, le Moule, d'après toi, est-ce que j'ai un contrat avec Ferrari? Ah oui, ah merde.
C'est dommage.
Il dit, attends, je jette un œil dessus, je te dis.
Non, c'est pas bien.
Oui,
c'est pas bien.
On l'a fait plein de fois, c'est pas bien.
Oui, mais moi non, donc j'ai le droit.
Donc moi ensuite ce sera un draft contre la FIA.
Oh, what a surprise.
Oh merde, il faut que je fasse autre chose.
Non, je te rassure, ce sera pas pour tu sais quoi. Ah. C'est une information qui est passée totalement inaperçue ce week-end. Personne n'en a parlé. C'est un peu lié à Romain Grosjean puisque ça concerne sa Lotus. Il se trouve que la FIA a autorisé Lotus à rouler ce week-end avec la suspension qui avait été déclarée illégale au soir du Grand Prix de Grande-Bretagne et qu'on leur avait demandé de changer. La raison invoquée, c'est que comme ils ont des difficultés financières, il fallait donner du temps à Lotus pour qu'ils puissent se remettre, et donc on leur a accordé du temps jusqu'en Belgique. Donc moi, je pousse clairement un coup de gueule contre cette décision de la FIA, qui consiste à dire que quand une écurie est en difficulté financière, on peut lui autoriser à mettre n'importe quelle pièce qui est illégale. Donc je propose qu'on autorise immédiatement Marussia et Caterham et même Sauber à mettre un V12. Oui. Voilà.
20 propose aussi qu'on.
20, voilà.
Deux moteurs.
Trois moteurs même. Hein. Qu'on les autorise à faire des ravitaillements en course. Voilà. Qu'ils aient le droit de prendre les pneus qu'ils veulent. Même des pneus de route, des pneus de moto. Tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui les rendra plus rapides. Voilà quoi. C'est, en même temps, c'est rassurant. Ça veut dire qu'on fait aucun cadeau à Red Bull, Ferrari, Mercedes. Mais enfin, je trouve un peu grave quand on a un règlement.
C'est quand même.
C'est pas contre Lotus, et je trouve que bon, c'est bien de vouloir aider les équipes qui sont en difficulté financière. Là, maintenant, je suis pas non plus certain qu'on autorise exactement la même chose, qu'on ait autorisé la même chose à comment ça s'appelle, à HRT ou à d'autres. Et je pense pas que c'est une solution que d'autoriser des voitures illégales. Là, ce week-end, on a discrédité, je trouve, le sport en autorisant une voiture qui est réglementairement illégale parce qu'elle a une suspension illégale. Voilà, c'est je trouve ça très grave. Et c'est dans la continuité de ce que fait la FIA depuis quelques temps. Donc.
Ce que j'avais vu, c'est qu'ils avaient changé pour l'Allemagne. Donc,
ouais.
Et là, ils sont revenus à l'ancienne.
Ils sont revenus à l'ancienne.
Qui est illégal.
Parce qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir agir vite. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pu mettre des... Des suspensions nouvelles pour l'Allemagne, mais pour la Hongrie, ils n'avaient plus l'argent.
Ils ont payé Raikkonen, c'est pour ça qu'ils n'ont plus de sous.
Non. Les gars, il faut choisir. Hein. C'est soit on paye Raikkonen, soit on paye les suspensions.
Enfin, en même temps, entre avoir un pilote dedans puis pas de suspension...
Oui.
Oui. Bah moi mon drive-through ce sera, bah j'ai toujours pas trouvé, ce sera pour Ferrari, pour le, bah oui je les aime trop mais là ça commence à me sortir par les yeux, leur politique, leur voiture qui marche mais qu'en fait il marche pas, leur déclaration de Montezemolo le lendemain de course, ou même Alonso on sent qu'il y a un... Que ça chauffe. Et donc c'est pas sain tout ça. Et même l'arrivée d'Allison, de James Allison chez Ferrari, c'est ça. Il va sûrement apporter quelque chose, ça j'en doute pas. Mais il va, ce sera pas.
Déjà, six mois, quoi. Ne serait-ce que l'arrivée d'Allison, qui vient occuper un poste d'appui.
Donc a priori, il remplace Fry, non?
Alors en fait, enfin, il va remplacer Fry dans la conception du châssis, et Fry va monter en grade en dirigeant tout l'aspect technique. Globalement, c'est ce que fait déjà Fry. En fait, il vient en délégation de certaines compétences de Fry. Donc aujourd'hui, Fry, il était à la fois à la tête du châssis et en même temps à la tête de la gestion technique globale. Ce qui est juste, à un moment donné, il faut juste dire stop. Et donc là, il y a vraiment un responsable
on pousse
châssis.
Pas, est-ce qu'on pousse pas Fry dans un bureau sous prétexte
non, je pense
de
pas. Non, c'est du renfort, c'est un
parce
renfort.
Parce au contraire, voilà, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi un patron pour. Et c'est aujourd'hui, c'est peut-être le problème de Ferrari, c'est qu'il y a Fry ne peut pas pleinement se concentrer sur la gestion technique avec des défis qui sont importants et compagnie. C'est impossible pour Fry, tout en devant entre guillemets travailler sur le châssis. Donc il est obligé dans les deux cas, il est obligé de déléguer compagnie. Il est jamais vraiment à son poste. Là au moins, il y a entre guillemets un vrai directeur châssis et un
Il a une vision technique. Lui, il a une vision de la voiture dans son ensemble, James Allison aussi. Hein. C'est un technicien du terrain, j'allais dire. Il a quand même conçu des bonnes voitures.
Clairement, ils essaient aussi de récupérer, entre guillemets, des choses de l'océan.
C'est un
ancien chez Ferrari, clairement. En plus. Donc, c'est quelqu'un déjà qui connaît bien la maison.
Oui. Et il était chez Renault aussi, ouais. À l'époque d'Alonso aussi. Donc, je pense que c'est un atout. Bon, après, comme d'habitude, c'est pas avec enfin, effet immédiat.
Après, ça peut être encourageant pour l'année prochaine, parce qu'on sait que l'année prochaine, il y aura Fry, il y aura James Allison. Ils ont sorti des tiroirs, comment ça s'appelle ?
Rory Byrne.
Donc voilà, pour la voiture l'année prochaine, bon.
Voilà, c'est pas ce qu'ils disent tous les ans.
Elle est déjà dessinée.
Ah non, Rory Byrne, ça a souvent été des rumeurs et compagnie.
Je veux dire le côté. Ouais, vous allez voir, l'an prochain, ça va être mieux. C'est pas un peu ce qu'ils disent tous les ans.
Non, mais ça, c'est...
Mais Mercedes,
c'est pas eux qui le disent. Ça, c'est... Là, pour le coup, c'est moi qui le dis. C'est pour le coup, on a enfin... C'est pas ton basis, quoi. Pour le coup, on a enfin des noms qui nous disent quelque chose Ferrari, et on est capable de les associer avec des voitures. Ton Basis, il est bien gentil, mais bon, il est bien gentil. Il est juste un tout petit peu arrivé, je pense, au bout de ses limites et c'est l'un des problèmes. Enfin, c'est pas normal que depuis deux ans, on n'ait pas engagé un ingénieur de renom ou alors on cherchait à engager quelqu'un d'autre ou alors il y avait personne qui voulait venir. Enfin, mais voilà, à un moment donné, c'est pas normal qu'on ait laissé Pat Fry dans un poste qui était un poste, mais juste, enfin, c'est ingérable comme poste.
Surtout chez Ferrari, oui, où tout est multiplié.
Et avec les chantiers qui sont en cours, enfin, déjà, surtout ne serait-ce que le problème de la soufflerie, il fallait dès le départ, au moment où t'as un problème avec la soufflerie, te dire, c'est pas possible.
Ah non, mais là, j'en peux plus de leur soufflerie, là.
Mais le pire, c'est, non, mais, c'est,
il dit, ah, c'est bon, c'est pas bon. Après. Ah, bah non, en fait, non. Bon, après, non. Après, il dit, oh, c'est bon, ce sera
mais
bon.
Mais le pire, c'est même pas leur soufflerie. C'est-à-dire que je crois que la soufflerie Maranello, elle est toujours pas rouverte. Elle doit rouvrir dans la dernière partie de saison. Donc en ce moment, je crois que c'est la soufflerie de Cologne qu'ils utilisent.
De Toyota.
Voilà, donc à un moment donné, c'est vous allez essayer votre soufflerie, ça marche pas. La soufflerie de Cologne, ça marche pas. Essayez celle de McLaren si vous voulez.
Ils sont allés chez Sauber, sinon.
Il y avait eu la rumeur comme quoi ils pourraient faire un rabais sur les moteurs à Sauber pour cette saison, enfin accepter d'être payé en retard, avec en échange l'accès d'un moyen. Et bon, après, ils se murmurent aussi qu'ils avaient recruté notamment Pedro de la Rosa pour comment dire, restructurer un petit peu et améliorer tout ce qui concernait la simulation, parce que de la Rosa a beaucoup travaillé chez McLaren. Oui. Et visiblement, les conseils apportés par de la Rosa n'ont pas porté leurs fruits.
Oui. S'y connaît en Lego, pas plus que ça, je crois. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que ce feuilleton de la soufflerie Ferrari aussi, on l'entend, c'est un serpent de mer, quoi.
Et l'année prochaine, ça recommencera.
Mais en fait, quand je pensais, c'est depuis 2009, ils ont pondu des voitures, on va dire, bonnes sans plus.
Un peu quand même.
depuis la nouvelle réglementation, elle a jamais été dominante, la Ferrari. Ils ont fait quoi, trois pôles sur le sec, je crois. Donc,
après, le problème, c'est de récupérer ton retard. Enfin, on le voit, c'est seulement cette année qu'on arrive à rattraper la boule. Voilà, si en face t'as une équipe qui est capable de développer comme a fait Red Bull, c'est très compliqué de revenir en face. Il y a que très peu d'équipes qui peuvent le faire. McLaren a su le faire l'année dernière. Le problème, c'est que Ferrari, ils ont pas su le faire, alors qu'ils ont les moyens, et ils ont quand même, voilà, c'est pas non plus une bande de cons.
Mais cette année, ils ont, théoriquement, contrairement aux autres années, cette année, ils avaient une bonne base, voire même la meilleure voiture, sûrement, dans les premiers Grands Prix, hein, en Malaisie, Chine, Espagne, probablement. Et, là, ça stagne. Je pense qu'ils progressent un petit peu, et les autres progressent plus, et du coup, ils stagnent, voire ils reculent dans la hiérarchie. Alors que les années d'avant, ils avaient tendance à galérer en début d'année, et à partir de l'été, ça allait mieux. Comme l'année dernière, et même il y a deux ans, en 2011, début 2011, c'était assez difficile, et ils avaient tendance à revenir.
Mais c'est toujours le problème quand t'as une bonne voiture en début de saison. Et c'est là où aussi on prend peut-être en relief le choix qui a été fait par McLaren de repartir quasiment d'une feuille blanche dans la voiture de cette année. Et ça, ils ont expliqué en disant que,
qu'ils auraient plus de marge de manœuvre.
Est-ce que c'est pas justement ce qui touche Ferrari? Peut-être qu'ils sont restés un peu dans la continuité l'année dernière, ils ont repris leur voiture, mais ils sont restés un peu sur les mêmes concepts. Ils ont rien apporté non plus d'extrêmement novateur cette année sur la voiture. La voiture a été bonne au début, mais aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver des développements qui la font avancer. Et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui. Et ce problème-là, il peut être dû, pour moi, il est dû à un truc, c'est un manque d'idées, un manque d'idées, de créativité, d'innovation. On a beau parler de la soufflerie et compagnie, à un moment donné, c'est juste pas ça le problème. Le problème, c'est que sur la Ferrari, on ne voit rien, on ne voit aucun concept qui soit aujourd'hui vraiment vraiment novateur. Lotus, on voit des trucs. Mercedes, on voit quelques trucs. L'exemple ces dernières années, c'est Red Bull, quoi. Red Bull.
Ah ben ils ont toujours. Ils ont toujours eu l'innovation,
quoi. Eux, ils innovent vraiment. Là où les autres derrière, et notamment Ferrari, peinent à innover. C'est ce qui est intéressant avec l'arrivée de James Allison, c'est que il récupère un mec qui était dans une écurie qui, avec peu de moyens, arrivait quand même à innover énormément. Donc, s'ils arrivent à avoir les idées de James Allison pour l'année prochaine, ça peut être positif.
S'il en a des bonnes, surtout.
Oui.
Mais là, justement, ce sera intéressant l'année prochaine de voir les. Parce que c'est quand même un gros changement de règlement et ça va rebattre les cartes. Et on va voir si Red Bull, justement, arrive à garder la mainmise.
Oui.
Par rapport à McLaren ou Ferrari ou peut-être Lotus ou quelqu'un d'autre qui pourra arriver. Mercedes, j'ai oublié Mercedes. Et du coup, ça va être intéressant quand même.
Ce qui peut entre guillemets porter peut-être, rendre la tâche difficile à Red Bull, c'est que Red Bull n'est pas son propre motoriste. Là où par exemple Mercedes et Ferrari ont l'avantage d'avoir un département moteur qui se trouve la porte à côté du département aéro. Donc, c'est des équipes qui sont habituées à travailler ensemble, etc.
Je pense que Red Bull et Renault, ils travaillent ensemble depuis longtemps et ils ont quand même un partenariat privilégié,
aussi fluide. Là, vraiment,
Oui, sûrement.
C'est-à-dire que le temps que tu perds à te faire comprendre et compagnie entre Renault qui doit amener des informations et compagnie à Red Bull et compagnie, je pense que les synergies sont peut-être un peu plus faciles chez Mercedes et chez Ferrari pour développer le moteur. Et tiens, on a un sable, le mec il a juste à faire le tour du bureau en disant les gars, on a trouvé ça sur le moteur, il faudra réfléchir comment on l'intègre sur la voiture. Et directement,
et puis, entre une équipe et son moteur client, il y a toujours, même si pour l'instant apparemment c'est au beau fixe, ça peut toujours casser. Il peut toujours y avoir un risque.
Comme McLaren.
Tout à fait. Voilà. Ça faisait 10 ans qu'ils étaient partenaires. Et
justement,
finalement,
ils vont avoir une période difficile, là. Là, comme je disais, on est en train de vivre pour la fin de McLaren, mais ils ont pas une bonne période qui les arrive parce qu'ils ont l'année prochaine, nouvelle voiture. Ensuite, ils auront un nouveau moteur. Button, il va rester pas encore 10 ans. Et là, McLaren, mine de rien, ils ont aussi du pas sur la planche de leur côté.
De toute façon, clairement chez McLaren, on attend Honda maintenant.
Ouais. Et l'année prochaine, justement, eux, ils pourront pas travailler comme ils veulent avec Mercedes autant qu'ils voudraient. Mercedes ne voudra pas travailler avec eux. Voilà. Donc
mais c'est là où on voit la difficulté. Enfin, même chez
les partenariats.
Faut pas s'inquiéter du partenariat avec Renault. Renault est un constructeur très professionnel. Oui, Red Bull est un manufacturier aussi très professionnel.
Tout va bien.
Et les deux vont bien travailler. Mais après, même s'il y a des questions de peut-être, l'année prochaine, ce sera sans doute Infinity Red Bull et il y aura plus Renault dessus.
Ça, c'est du marketing.
C'est un commun accord. C'est du marketing. Mais en termes de partenariat, ça fonctionne plutôt bien. Red Bull reste et restera l'équipe numéro 1 devant Lotus. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais mine de rien, il y a quand même ce qui peut-être gêner Red Bull, c'est ce petit décalage du fait de ne pas être ton propre motoriste, en termes de communication et compagnie, il y a quand même la nécessité de perdre un peu de temps
sur ce genre de choses, d'attendre derrière les autres, d'attendre les retours de Renault. Enfin voilà, là où Ferrari, en fait, Ferrari et Mercedes, ils font les deux en même temps. En même temps qu'ils analysent le moteur.
D'ailleurs, Lotus Renault l'année prochaine, c'est sûr ou pas?
On attend.
C'est... Parce qu'ils savent pas quel pilote, puis ils savent pas quel moteur non plus.
Pour moi, ce qui est sûr,
ça pas été officiel. Il y a Red Bull et Toro Rosso,
même
c'est officiel.
Même Caterham, c'est...
Waouh, pareil, et Caterham ça... et Lotus, c'est pas encore
Caterham,
officiel.
Caterham, a priori, c'est Renault aussi.
Oui, mais c'est ça le truc. Oh, bah, Caterham, que, oui. Caterham, normalement, c'est une évidence et c'est pas encore officialisé. Donc Lotus.
Il doit y avoir encore des discussions.
Après, ça, je pense que ça discute gros surtout.
Oui, c'est ça. Et puis avec les pilotes et tout.
Faut pas oublier, c'est que le moteur Renault est le plus cher.
Oui.
On parle d'un différentiel quasiment de 8 millions entre le Ferrari qui serait à 15 millions et le Renault qui serait à 23, 24 millions. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce volet financier-là, notamment chez Caterham qui doit agir, et chez Lotus aussi, parce qu'on sait que la situation financière chez Lotus n'est pas très bonne. Et puis Lotus, visiblement, a d'autres priorités en ce moment.
Oui, c'est... Ah, Eric Boullier, il dort du boulot sur son bureau, lui.
On va pouvoir passer au Grand Prix maintenant, Shinji.
En effet, Dino, on va passer à la course et au qualif. Et les deux guignols de la semaine, on a Esteban Gutiérrez, un classique, mais plus surprenant quand même, Paul Di Resta, 18e.
Oh,
quand même.
Ah, ça lui est arrivé deux, trois fois cette année, ouais, je crois. Mm-hmm.
C'est un peu régulier, quoi. Et... Même quand il fait une bonne qualif, il revient en fond de grille.
C'est le... Comment ? Le resserrement des forces, et puis justement, Force India, ils sont...
Bah, le resserrement des forces, et puis eux, ils ont payé cher le changement de pneus.
Oui, clairement.
Pour le coup, si on devait choisir une écurie perdante, Force India serait largement en tête des écuries perdantes, je pense.
Oui.
En Q2, on trouve les Williams, Bottas 16e, Maldonado 15e, Jean-Luc Vergne fait 14e, encore une fois derrière son coéquipier.
Oui, il est juste derrière, pas très loin.
Non, à peine. Jenson Button 13, Hülkenberg 12, Sutil 11. Ouais, ouais.
Bah, Button 13e, ça étonne personne, c'est ça.
Non, c'est cette année, c'est ça n'étonne personne.
Ça nous étonne plus, quoi.
En Q3, Marc Weber 10e, en n'ayant pas fait temps. Perez 9e, Ricciardo 8.
Attends, Weber 10e?
Oui, sans faire de temps.
Mais que lui est-il arrivé? Attends. Je vais essayer de deviner. Alors, il s'agit de Marc Weber. Qu'est-ce qu'il peut aller mal chez Marc Weber? En dehors du départ, puisqu'on est sur une séance de qualification.
Attention. Ça n'est ni les suspensions, ni le moteur.
Une roue qui s'envole.
Ouais. Ni les ailerons, ni les pneus.
Pas les pneus.
Attends, je vois un R dans le mot.
Ni le fond plat, tout à fait.
Je vois un R et je vois une lettre qui ressemble un peu, mais presque pas. Je vois un K.
Tout à fait.
KR. Il y a un problème de Kimi Räikkönen dans la voiture. Non, ça c'est l'année prochaine.
Peut-être l'an prochain.
Pas encore.
Je sens de l'électricité dans l'air chez Red Bull.
Oui.
Ah, un problème de Kers.
Eh oui, encore un problème de Kers.
C'est non. Attention, Weber, il a pas un problème de Kers. Weber,
le
il a
problème
le
de...
problème de Kers.
C'est-à-dire que les ingénieurs, ils démontent son Kers, il marche pas. Ils réfléchissent pendant deux semaines. Oh, c'est pas grave, on le remet.
Moi, je pense qu'il le fait lui-même, je pense, Weber, le Kers.
Oui, il y a des chances. Ouais,
il dit, tiens, tu vas à Kers? Bah, fais-le.
Le pire, c'est qu'ils ont essayé ce week-end. Ils ont dit, écoute, on va te le mettre sur la voiture Vettel. Ils le mettent sur la voiture Vettel, il marche. On le met sur ta voiture, ça ne marche pas. C'est ta voiture qui refuse. C'est physique. Ta voiture refuse toute pièce mécanique qui peut t'aider à gagner.
Moi, j'ai peur pour Kimi Räikkönen l'an prochain.
Et tu as raison.
C'est peut-être la voiture qui est maudite ou il y a un truc. Il y a peut-être un fantôme dans la voiture.
Oui, mais si Kimi Räikkönen est champion à la fin d'année, il aura la voiture numéro 1. Et Vettel, la numéro 2.
C'est vrai.
Donc c'est peut-être Vettel qui aura.
Ah, c'est là que ça va jouer, en fait.
C'est pour ça qu'il faut que Räikkönen, s'il va chez Red Bull, il faut qu'il finisse champion.
Donc Räikkönen, hein, qui a fait 6e, Alonso 5e. On rappelle, hein, ils avaient tout misé sur la pole et la qualif.
Ouais. En même temps, il est dans le même 10e que Rosberg. Hein. Ouais,
oui, mais il est 5e.
Et la Hongrie. Non, mais la Hongrie, c'est pas un circuit pour la Ferrari. Hein. Puis en termes de temps, il était pas. Il est à 4 dixièmes.
Oui, puis enfin voilà, ils ont. Attention.
Et honnêtement,
ils ont travaillé pour les qualifs. Ils ont travaillé pour la pole. Ils ont travaillé pour les qualifs.
Qu'est-ce que ça avait été s'ils n'avaient pas travaillé pour les qualifs?
Mais... Eh ben, il aurait été à 7e.
Là où il est depuis quelques grands prix, malheureusement.
En fait, il aurait été derrière Räikkönen. Côté ça.
Rosberg 4, et donc Grosjean 3, Vettel 2e devant Lewis Hamilton.
Vettel 2e, c'est impossible. J'ai pas vu la fin de la qualif, mais il dominait tellement, il a mis 8 dixièmes à tout le monde au début de Q3, j'ai du mal à penser qu'il ait pu être battu.
Hamilton, il pensait pareil. Hein.
Mais même Vettel a reconnu qu'il avait, qu'il a dit qu'il aurait pu plus attaquer, sous-entendant
qu'il
avait...
l'a pas fait. Oui, il pensait,
voilà, bah, qu'il avait peut-être
monde,
un
tout
peu.
Tout le monde pensait qu'il, de toute façon, quand il a claqué quand même le temps, ah, tout le monde se disait, ouais, c'est bon, quoi.
Ouais, c'est bon. Ouais, ouais.
Même lui.
Bon, les gars, je sors, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir.
D'ailleurs, Lewis avait vraiment l'air surpris qu'on lui, je me mette à la pole. Ah, j'ai la pole.
Oh, la pole, c'est quoi ça?
Ouais, ça fait quand même 3 de suite, hein.
C'est ce ah ouais, bah justement.
Et bizarrement, j'ai vu que c'était la première fois qu'il en faisait 3 de suite. C'est quand même bizarre.
La première fois, c'est vrai.
C'est étonnant comme stat. Oui, oui.
Ouais, mais.
Et il en a 30 de pôle, mais c'est la première fois. Oui, et c'est la première fois que c'est.
Ah, mais c'est un pilote inconsistant.
Oui, mais 30.
Le chef du monde.
C'est quand même. On a quand même deux. Vettel Hamilton, c'est quand même deux as de la qualif de la pôle, hein. J'ai vu qu'ils avaient 55 premières lignes.
Ils ont cette capacité à claquer un tour.
Il doit en être, Alonso, il y en a 37, je crois, premières lignes.
C'est ce qui est dommage avec Alonso. Ouais. Alonso, on oublie, mais c'est pareil, c'est un pilote très rapide sur le tour rapide.
Mais il lui faut une bonne voiture.
Voilà.
Bah, comme tout le monde, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est la 16e pole pour Mercedes en tant que constructeur et la 98e pour le moteur Mercedes. C'est dingue, là c'est pareil, rien qu'avec McLaren, on pourrait croire qu'il y en a plus, mais non, 98. À une moyenne de 198,665 km/h. Comme quoi c'est pas si lent que ça, là, en Hongrie.
Ah voilà, moi j'arrête pas de le dire.
Avec tous ces virages de sens, c'est pas mal, quand même. Franchement.
Il y en a qui essaient d'aller un peu vite. En coupant les virages.
En élargissant la
courbe. Ou en activant leur DRS à des endroits où ils
doivent. Non, c'est bon, hein.
Ouf, ouais.
Pour qui deux, franchement.
Trois fois, c'est quoi, trois fois?
Si on peut pas activer le DRS de temps en temps.
Non, mais trois fois rien, surtout.
Ah, non, il était à plus ou moins une seconde. Qui était derrière. Voilà.
C'était à l'image du week-end, de toute façon. Ouais.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Et donc pour la course, Dino, quels sont les pilotes qui ne font pas partie du top 10?
Eh ben, à ma grande surprise, Shinji, et je pense que je n'ai jamais eu l'occasion de dire ça.
Ah non, oui, oui, la dernière fois, c'était pas là.
Oui, c'est vrai. J'ai beau chercher, d'ailleurs, j'ai beau chercher la fois où il a été aussi mal placé, c'est Max Chilton.
Waouh! Bravo!
Avec 0 point, qui est dernier.
C'est qui?
Pareil que c'est un pilote qui sera là en l'année prochaine, d'après Marussia. Parce que Marussia, ils ont déclaré qu'ils voulaient garder leurs deux pilotes. Ah bon?
Mais ils en ont aucun pilote, non?
Ouais, voilà.
C'est le fils du patron, l'autre, non?
C'est-à-dire que il y en a, on aimerait bien qu'il parte, et il y en a un autre qu'on aimerait bien qu'il parte, oui. Mais pas pour les mêmes raisons.
Oui, c'est vrai.
En 21e position avec 14 points, nous avons Valtteri Bottas, qui a connu un abandon en cours, je crois, sur problème moteur. En 20e position, nous avons Guido Vandergaard, 21 points.
Il lui arrive de marquer des points.
Oui.
J'ai failli lui mettre un.
Ah, t'as failli?
T'as failli.
Bah, c'était sa meilleure course. Ouais, ouais,
okay. Il était en pas 19e loin. Position, nous avons Esteban Gutiérrez, 23 points. Ex aequo avec Paul Di Resta, lui aussi 23 points. En 17e position, encore un ex aequo, même deux ex aequo. Mais d'ailleurs, il n'est pas 17e puisqu'il était classé derrière, donc il est 16e. Donc en fait, le 17e, c'est Jules Bianchi avec 30 points. Et le 16e, c'est Charles Pic avec 30 points lui aussi. Mais comme il a fini devant, bah voilà, il est 16e. En 15e position avec 31 points, c'est Adrien Sutil. En 14e position, c'est l'homme qui va plus vite que son ombre en qualification et qui laisse son ombre conduire en course. C'est Daniel Ricciardo avec 72 points.
C'est tellement vrai.
En 13e position, nous avons Nico Hülkenberg, 97 points. En 12e position, Sergio Pérez, 182 points. Et Mister Eleven, il doit être nostalgique des années Schumacher. Il doit avoir voulu lui rendre un hommage ce week-end en lisant « Je serai Mister Eleven ». Avec 251 points, c'est Nico Rosberg. À noter que le vainqueur a marqué 2521 points.
Exactement. Et Dino et moi, nous avons remarqué la bonne course de Guido Vandergaard, la tulipe. J'ai écouté l'émission la semaine dernière.
Le surnom du siècle.
Le plus beau surnom du monde, la tulipe. Puisqu'on l'a.
La tulipe volante.
On lui a tous les deux mis un point. Il a
j'ai failli. Puis...
quand même, voilà, c'est.
Oui, oui. Non, mais 14e sur 17. Oui, enfin, oui, 17.
Oui, mais Pic, oui, 15e.
Devant, c'est Pic. Mais il y avait combien entre les deux à l'arrivée?
Ils sont dans le même tour. C'est ça, oui. C'est ça qui est bien, c'est que les pilotes qui sont dans le tour d'après, on n'a pas leur écart entre eux. Ils sont dans le même tour.
Ah oui.
Bah, c'était un peu la seule bagarre qu'enfin ils pouvaient se battre que entre eux et c'est à ce moment-là qu'il faut gagner quoi.
C'est bien, c'est.
Oui, non mais c'est bien pour ça va l'arriver deux fois dans l'année.
Oui.
J'en profite. Je crois.
Sinon Dino, tu as donné 4 points à Nico Hülkenberg.
Oui. Pourquoi?
C'est pareil, quand je dis, mais pourquoi?
Alors, je dois avouer qu'en fait, j'ai la fin de mon classement, je l'ai fait au classement. Et Nico Hülkenberg 11e, ça m'a étonné.
Oui.
Je sais pas. Voilà.
C'est tu peux pas dire que tu l'as fait au classement parce qu'il y a des gens qui sont devant lui que t'as mis derrière.
Oui, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un petit peu de délit de sale gueule.
D'accord.
Et là, pour le coup, c'est vrai. C'est vraiment un délit de sale gueule. C'est juste que le mec faut qu'il ait une sale gueule. Tu vois, Hülkenberg, c'est juste les dents. Et il y en a, c'est tout le visage.
Ah oui, d'accord.
C'est bizarre, quand on dit ça, tout le monde voit de qui on parle.
Cette émission n'est pas diffusée en Amérique du Sud.
À la 10e place, il a marqué 303 points. Tu lui as donné un point, Steve. C'est Jeff, Jean-Éric Vergne.
T'as les 10, oui. J'ai le 10 général pour moi, oui, voilà. Eh ben, Vergne, ben justement, il part 6 places derrière Ricardo, je crois, de tête, 6 ou 7. Et il est 17 ou 18e au premier tour. Et il fait une bonne course régulière et il finit devant son coéquipier.
Mais sinon, c'est un merveilleux choix pour Red Bull de mettre Ricciardo. Hein, c'est vachement bien. Ça serait vachement bien si la saison de F1 n'était composée que de qualifications. Mais pas de bol, il y a aussi les courses.
Ah oui. Mais en partant deuxième sur la grille, il va finir huitième. Non, mais Vergne, c'est vrai qu'il est quand même bon en course, on peut pas le nier. Et si on lui donne une Red Bull en qualif, ben il se qualifiera dans les 4 premiers. Hein. Je vois pas pourquoi il ferait pas ça. Hein. Je sais pas, cet écart en qualif, honnêtement, c'est quand même difficilement explicable. Quand on voit leur perf en course, pourquoi il arrive pas devant son qualif plus souvent qu'une fois sur, je sais pas, une 4, peut-être une fois sur 4, il est devant.
Il y a peut-être un truc à chercher du côté de l'exploitation des pneus. Peut-être que Ricciardo arrive mieux à mettre en température
rapidement
et à les mettre dans la fenêtre d'utilisation, là où Vergne, il a peut-être besoin de faire plusieurs tours, et ce qui explique peut-être qu'il est meilleur en course. Mais c'est vrai que ce soit l'un ou l'autre, je n'arrive pas à m'expliquer comment à voiture égale, ils peuvent faire des courses aussi contrastées.
Mais
t'en as un qui est brillant en qualification, l'autre qui est brillant en course, et jamais ils arrivent.
Ça faisait un peu ça avec Hamilton et Button chez McLaren. Hein,
un conseil, les gars, faites un gamin avec vos deux qualités, il est certain d'aller chez Red Bull.
Lui.
Oui. Oui.
Il va falloir ajouter des vies à la fin.
À la 9e place, celui qui a subi donc un délit de sale gueule de la part de Dino.
Non, j'ai mis 2 points. Ben,
oui, parce qu'on lui a tous les trois mis 2 points. C'est Pastor Maldonado. Enfin, le premier point de Williams cette année.
Ben, bravo, Williams.
C'est premier point depuis États-Unis 2012. Donc ça fait 11
bientôt
courses.
Une victoire.
Oh oui.
Oh, bientôt.
À l'année prochaine,
ça veut dire quoi, bientôt?
Et qui sait?
Ah, ils ont un moteur Mercedes.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Non, mais ils changent tout le temps.
Il faut encore qu'on... Non, mais c'est vrai.
On n'est pas encore en... On n'a pas l'image en tête encore.
Il faut s'habituer.
Oui.
Tu sais, depuis Williams Toyota, je crois qu'on peut tout s'habituer à tout.
Eh ben, attends, mais pour eux, un point...
Ah bah, ils se mettent à l'abri, Caterra, mais... Et Marussia.
Oui, c'est vrai. Ils l'ont attendu un moment. Mais j'ai vu qu'à l'époque, à la même... l'année dernière, à cette époque, ils en avaient 47.
Oui, c'était il y a longtemps.
Et encore. À la même époque, ils en avaient que 47.
Oui.
C'est ça, il faut bien préciser. L'année dernière, ils ont quand même pas mal vendangé. Cette année, on peut pas dire qu'ils se fassent trop remarquer, les pilotes. Voilà.
C'est clair qu'on les voit pas beaucoup.
Et là, ce qui est drôle, c'est que même Maldonado le dit, on gagne un point parce que Rosberg a abandonné.
Ah ben, il est réaliste.
Maintenant, il gagne des points sans même les attendre.
À la 8e place, il a marqué 542 points. C'est Felipe Massa. Je lui ai donné 4 points, moi c'est au classement. Steve, tu lui as donné 4 points aussi.
Ouais, pareil un peu au classement, et puis il a eu l'aileron abîmé toute la course aussi, donc ça n'a pas dû l'aider forcément.
La faute à qui
La faute à Nico, non?
Moi j'aurais plutôt tendance à mettre les torts à Nico.
Bah il rentre bien dedans quand même.
Bah disons que là c'est...
Alors après Nico dit que c'est plutôt les torts à Massa. Oui, mais en même temps c'est aussi à toi de faire attention à... Après, est-ce qu'il est vraiment à un côté, c'est compliqué.
Il y a souvent des.
Disons que sincèrement.
Des touchettes à cet endroit-là.
Oui. Au premier tour. Et puis, sincèrement, je pense que de tout ce qu'a pu nous faire Massa ce week-end, je pense qu'à ce moment-là, c'est le moment où j'ai moins envie de lui mettre la tête sous l'eau. Je trouve qu'il a été, mauvais. Sincèrement, dès qu'on a vu Massa, je trouvais qu'il faisait de la merde. Je dis honnêtement, sur Grosjean, il fait de la merde. Voilà, dès que je le voyais à l'écran, il faisait un truc qui me plaisait pas. Voilà, en ce moment, je suis en période de rupture avec les pilotes Ferrari. Donc, je veux que Massa dégage. C'est officiel. Virez-moi Massa.
Ah, mais ils vont garder, hein.
Ah, bah ouais.
Ah, bah là, 90%, ils le gardent.
Ah, oh là, ça, là, 10%. Notre espoir se limite à 10%.
Non, mais. Ah, Felipe, c'est déjà un effort qui revient en Hongrie, déjà.
Mais enfin, sincèrement, pour le coup, on va reparler de Grosjean un peu plus tard, mais pour le coup, si je trouve bien un pilote qui a fait un peu n'importe quoi ce week-end, c'est Massa. Sur le truc avec Rosberg, enfin voilà, Rosberg, c'est un peu, pour moi, c'est un peu entre les deux. Voilà, c'est Massa qui est peut-être un peu optimiste en voulant prendre l'intérieur à cet endroit-là.
Oui, c'est un peu les deux.
C'est Rosberg qui surveille pas son intérieur et la compagnie. Mais enfin, globalement, je trouve Massa qui a été inexistant et dès qu'il fallait faire un truc de mal, il faisait mal. J'ai dit, là, il faudrait qu'en ligne droite, je reste sur cette ligne-là. Bon, en fait, non. Je vais aller dans les marbles. Là, il faudrait que je freine. Eh ben non, je vais pas freiner. Non, ouais, c'est la première fois, sincèrement, c'est la première fois que je regarde une course de Massa. Pourtant, il nous en a fait des courses pas terribles. C'est la première fois que je regarde une course de Massa où à chaque fois que je vois l'écran, je fais... Mais le pire, c'est que je suis sûr que si je regardais à nouveau sa course,
tu referais plus.
Il y a peut-être des choses qui me choqueraient pas. Mais là, c'est juste j'avais une overdose de Massa. Pourtant, on l'a pas vu beaucoup. Mais non, j'avais une overdose. J'avais pas envie de le voir. Pour ça que j'ai pas mis dans mon classement d'ailleurs.
Septième place, les Anglais, il a marqué 1023 points, c'est Jenson Button. Je mets 6 points comme Steve. Dino, tenez.
Non, il a changé de nom, maintenant c'est Jenson Button.
Ah, il a joué un bon rôle dans la course, hein, lui. Hein.
C'est ce que j'ai tweeté pendant la course. J'ai fait une citation. Moi, ma passion dans la vie, c'est d'arriver juste à la sortie des stands quand les autres sortent des stands.
Et surtout devant
Vettel. Devant Vettel, devant Alonso.
Deux fois devant Vettel.
Devant Hamilton,
mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais.
C'est bizarre d'ailleurs, on n'a pas vu le dépassement d'Hamilton sur Button.
Oui, je crois bien qu'on l'a pas vu. Hein.
Il y aurait bien du copinage entre équipes.
Ah, mais si, je l'ai revu, moi, je crois, pendant la course en replay. Et c'était au bout d'une droite, mais Button a ouvert la porte. Hein. Je l'ai vu, enfin, il a ouvert la porte. Et il a laissé, c'était pratiquement comme un drapeau bleu. Hein.
Voiture grise, ah bah tiens, il est encore dans mon équipe. Hop, je le laisse passer.
C'est mon pote Lewis.
Il a cru que c'était Perez, il s'est dit, oula, faut que je me mette sur le côté. Tu sais, c'était plutôt genre, tu vois, je t'ouvre cette porte, mais je peux t'en ouvrir une autre si tu veux. Ça s'appelle la porte de walking, tu reviens. Reviens.
Il y a encore ton vestiaire dedans. Tu peux me lire.
J'ai encore laissé ta combinaison, non, pas celle de McLaren, celle que tu mets, tu sais, lors de tes soirées un peu avec, voilà. Oui, ça l'encuire, Lewis, bravo, c'est bien, tu comprends vite.
D'ailleurs, je viens d'imaginer Lewis comme il est déprimé en ce moment. Je viens d'imaginer Lewis dans la tenue de scène de Nicole, déprimé sur son canapé chez lui. Eh ben, c'est pas beau à voir. C'est amusant, mais c'est pas beau.
Et donc, tout ce qu'il faut retenir de la course de Button, c'est que ça a été un bouchon.
Il a fait une stratégie à deux arrêts, lui.
Oui, il me semble.
J'ai un petit doute, mais je crois que c'est deux. Hein, ouais. Donc, il s'est retrouvé en décalé par rapport aux autres, mais il a. Je trouve qu'il a quand même tenu son rang, notamment face à Vettel. Là, il s'est pas mal défendu. Bon, la Red Bull avait sûrement pas assez de vitesse de pointe, mais bon.
Alors moi, voilà.
C'est le jeu.
J'ai été très étonné. C'est par le manque de motricité de la Red Bull derrière la Mercedes, enfin la McLaren. Quand Vettel est resté coincé derrière, on voyait bien à chaque virage que Button ressortait plus fort que Vettel. Et ça, ça m'a vraiment étonné. Quoi. Et je pense que c'est ce qui a été la clé de la victoire d'Hamilton, c'est que défaut de motricité, alors est-ce que c'est la voiture ou est-ce que c'est les pneus de Vettel qui fonctionnaient pas à ce moment-là, mais il n'arrivait pas à dépasser Button qui... Pourtant, voilà, la McLaren est pas mauvaise,
mais surtout quand il était derrière, c'est
assez facilement s'en débarrasser.
Il avait des pneus frais en plus, parce qu'il venait de faire son arrêt quand il s'est retrouvé derrière. Donc en plus,
on avait l'impression.
C'est vrai que ça a été.
On avait l'impression que Vettel avait des pneus morts, là où Button il avait encore des pneus frais. Non, mais il s'est pas encore arrêté. Toi, tu t'es arrêté.
Mais ça veut dire que la McLaren a progressé hein, aussi. Hein.
Peut-être tiré avant toi, voilà. De pneus, et puis ils ont peut-être effectivement bien appris et bien travaillé lors des essais jeunes pilotes.
Qui sont quand même plus dans le rythme, même si au final, je vois qu'il finit à 53 secondes. Mais bon, c'est vrai qu'Hamilton a eu un gros rythme aussi. Hein.
Et bon, dans l'ensemble, une bonne course de Button, une course
où il a rien lâché, quoi.
C'est pas une course, enfin, c'est pas une course.
Et il a mis les tendres au milieu aussi, hein.
Oui.
Je crois, hein. Et en fait, il est parti en dur comme Weber, et puis c'était un peu étonnant d'ailleurs qu'il mette les tendres au milieu, quoi. C'est...
Ouais, il a peut-être essayé de faire la différence pour sauter quelques places.
Oui.
Ce qui a pas marché, visiblement.
Si, peut-être sur Massa, je pense, non? À quel moment il a réussi à passer Massa?
Est-ce qu'il y a besoin de ça pour passer Massa? Est-ce qu'il faut vraiment mettre des tendres pour passer Massa? Les gars, faut que je passe Massa, mettez-moi des super millions.
apparemment, c'était sur la piste, je crois. Et Massa perd deux places au tour d'après. Qu'il a dû passer au 30e tour.
McLaren qui reprend 20 points sur Force India en deux Grands Prix. Et qui n'a plus que 2 points de retard.
Ah bah là,
Attention les gars, eh oh.
Bah là,
ouais. Force coup, India, McLaren sont... va peut-être dépasser Force India.
Énorme.
Sincèrement, si on m'avait dit ça en début de saison.
J'aurais pas cru.
Alors là...
C'est quand même dingue quand ça change d'une année à l'autre des fois. Force India, ça ira mieux, je pense, au Spa et Monza.
Ouais, Spa, j'aime bien Spa.
Ça devrait aller mieux. Ça devrait aller
mais
mieux,
même globalement, sur les pneus, on reparlera tout à l'heure de Mercedes, mais même globalement, enfin, c'est pas un circuit de Hungaroring où on peut vraiment juger des pneus. C'est pas un circuit hyper abrasif, c'est pas non plus un circuit très sollicitant pour les pneus. Il y a pas de grandes courbes comme à Silverstone. Enfin, voilà, faudra voir effectivement. Spa sera un test, il sera peut-être intéressant. Monza, je pense que ça sera pas du tout un test. Singapour sera pas un test, je pense. Donc après, il y aura Suzuka. Quoi.
Passons à la sixième place. C'est Fernando Alonso avec 1090 points. Je lui ai donné 8 points. Dino, tu lui as donné 6 points. Steve, tu lui as donné 10 points.
Oui, cinquième au classement, en fait. Que j'ai pratiquement le prix classement de la course en échangeant deux trois places. Et du coup, il s'est quand même bien accroché, je pense, avec la voiture qu'il avait. Et en plus, s'ils ont privilégié la qualif, comme ils disent, il a peiné en course quand même. Mais bon, parce qu'il pouvait pas faire beaucoup plus, à mon avis. Donc cinquième, ça me paraissait quand même pas trop cher payé non plus. C'est le classement de sa course, quoi, voilà.
Dino
Je sais pas quoi penser d'Alonso et de Ferrari en ce moment. Et sur ce Grand Prix, il est très agressif au départ. Il avait dit qu'il jouerait tout sur le départ. Il est très agressif. D'ailleurs, il s'en est pris un peu à Grosjean, mais voilà, il reproche à Grosjean de lui avoir fermé la porte.
Honnêtement, il y a rien.
En même temps, il essaye de dépasser à l'extérieur. Ouais. Donc, enfin, voilà, je trouve un peu mesquin de dire, ah, il m'a fermé la porte. Bah oui, mais bon, tu passes à l'extérieur.
Et il était derrière. De toute façon, après, voilà, il était bien derrière.
Mais voilà, non, agressif. Mais... Je pense qu'il a pris un bon départ, mais derrière.
Oui, parce qu'il se retrouve enfermé avec c'est qui Rosberg et puis Ricot. Non, c'est qui était troisième sur la grille.
Troisième, c'était Grosjean.
Oui, voilà, il y avait là et après il a passé Rosberg. Mais bon, après tout pour lui tout jouait au départ, hein, comme il disait. De toute façon, après.
On a fait trop juste que la Ferrari, enfin, tenait le rythme. Tenait pas de pneus. Enfin, voilà. Sincèrement, c'était.
C'était poussif, quoi.
Beaucoup poussif. Il a fait ce qu'il pouvait de mieux. Après, il a même utilisé trois fois le DRS. Bon, après, est-ce que Ferrari, enfin.
Ah là, c'est pas trop leur circuit aussi. Hein.
Ça me fait.
Faudra voir Spa.
Moi, ça me fait marrer les gens qui quand même traitent Alonso de tricheur. Enfin, j'ai vu quelques commentaires Alonso de tricheur. Bon, d'abord, il a utilisé le DRS. Faut quand même savoir que le DRS, le pilote l'active sur un bouton. À moins d'être super intelligent, le pilote ne peut pas nécessairement savoir qu'il est à plus ou moins une seconde du pilote qui le précède. Voilà, donc on sait pas exactement.
Non, puis même il est réglé le DRS.
Le truc, c'est la gestion électronique
qui s'active. Donc par exemple, il y a des fois où le pilote il doit passer dans la zone.
Non, le DRS est quand même activé par le pilote.
Oui. Mais il y a des fois où le pilote pense qu'il est dans la zone, il l'active et il s'active pas parce qu'il est pas dans la seconde.
Normalement, ça bloque si justement s'il est pas dans la zone. Il appuie, mais ce n'est pas censé s'activer.
Mais bon, voilà, en tout cas, on peut pas reprocher à Alonso.
Ah non, là, c'est clairement pas
sûr sur ce coup-là. C'est à la limite une erreur de l'équipe, encore une, depuis les
années. C'en est une, oui.
L'avantage, sincèrement, il l'utilise trois fois.
Ça fait une seconde même pas, je crois.
Ça fait une seconde au tour. Enfin, voilà. Ça fait une seconde sur le Grand Prix.
Il était tout seul, de toute façon.
En plus, Ferrari se défend en disant que ce qui est pas complètement faux, c'est que comme lui devait l'activer sur signal radio, le temps que les mecs lui parlaient par radio et compagnie, enfin, il perdait du temps, ce qui faisait que ça annihilait l'intérêt du DRS. Donc voilà, grosso modo, ça s'équilibre et surtout, enfin, le DRS sur le circuit de Hungaroring, je sais pas à qui il a été utile ce week-end.
La deuxième zone de DRS, mais alors là, chapeau les gars. Parce que, alors déjà, la ligne droite des stands, elle fait quoi? Elle fait 800 mètres, hein? Elle est courte, hein?
Elle est courte.
Mais alors, en foutre une, juste après le premier virage.
Ouais, mais ils pouvaient mettre où sinon? Ils voulaient en mettre une deuxième pour améliorer par rapport à l'année dernière, quoi. Mais c'est peut-être perdu, de toute façon, ce cirque.
Mais non, mais c'était intéressant d'en mettre une deuxième dans la mesure où la première, de toute façon, ne sert à rien. Elle n'est pas décisive. Donc c'est justement dans ces cas-là qu'il faudrait en mettre une deuxième. Et c'est là où je trouve que la zone DRS était bien conçue. Après, pas adaptée pour le circuit du Hungaroring. De toute façon, je pense que c'est inutile d'envisager de mettre une zone DRS sur le circuit du Hungaroring. Ça n'a aucun intérêt.
Attention, c'est pas le principe de mettre une zone DRS que je tague. C'est là, juste ce circuit-là, sur l'endroit là où ils l'ont mis, ça ne sert à rien, quoi.
Mais pour une fois, je trouve qu'on a une double zone DRS avec un point d'activation qui a été bien pensé. C'est pas le cas où on te fait deux zones de DRS avec un point d'activation, avec une première zone DRS qui en soi, de toute façon, même sans DRS, est déjà une opportunité de dépassement. Pour le coup, l'idée, c'était de se dire, on fait une première zone d'activation dans la ligne droite, de toute façon, les mecs dépassent, enfin, peuvent pas dépasser à son droit, c'est trop court. Ça permet de se rapprocher et la deuxième DRS va pouvoir donner une opportunité aux pilotes de se retrouver suffisamment près pour tenter quelque chose. On a vu d'ailleurs des tentatives, des pilotes qui ont essayé d'aller freiner, compagnie, en étant derrière. Bon, visiblement, ça suffit. Mais là, pour le coup, je trouve que les deux zones de DRS se justifiaient avec un seul point d'attection, là où ça se justifiait pas ailleurs. Après, ça a été inutile, mais je pense que globalement, de toute façon,
fallait bien essayer.
T'en mets trois ou quatre.
De toute façon, c'était pas une erreur d'essayer.
Utile, quoi. Donc, à la limite, autant en mettre deux, se dire au moins on aura essayé, et puis voilà, t'en mets une où tu peux, et puis si ça passe pas, ça passe pas, quoi.
Rien à rajouter sur Alonso ?
Qu'il a été agaçant, ce week-end. Mais sincèrement, Alonso, quand ça va pas, il faudrait juste qu'il se taise.
Ouais, mais c'est voilà. Mais il est comme ça, je crois. C'est un latin, quoi. Enfin, je remarque quand même qu'il a fait les quatre derniers grands prix. Il a fait deuxième, troisième, quatrième, cinquième.
Mais c'est ça le pire.
Donc
c'est
ça descend. Ça descend.
Ouais, mais globalement, il arrive quand même à rester devant. Enfin,
cinquième, il est dans le coup, mais
c'est pas encore honteux.
S'il est encore cinquième à Spa,
le problème pareil, c'est que cinquième, là où Vettel et Raikkonen font troisième et deuxième, quoi. Au moins, c'est derrière les deux autres, quoi.
Et Hamilton
aussi. Oui, il va remonter Hamilton, donc c'est pas... Mais c'est vrai que je comprends aussi la réaction de Montez Zemolo, et je suis content qu'il y ait cette réaction de Montez Zemolo. D'un moment donné, dire Alonso, c'est pas le moment de pester contre l'équipe et compagnie, c'est le moment de faire le team player. Et c'est ce qu'il a parfaitement
fait
l'année dernière, et que c'est ça qui est étonnant et qui montre qu'il y a peut-être quelque chose qui va cette année. C'est que l'année dernière, il avait compris, il avait pas mis la pression sur l'équipe. Il avait dit, voilà, on va continuer et compagnie. Et là, au moment où l'équipe aurait besoin d'être encouragée et supportée, Alonso, il revient un peu comme à sa première année où il est en train de dire, grosso modo, la voiture, c'est de la merde. Il n'y a aucun doute dedans. Il a hâte d'être en vacances. Il va prier pendant l'intersaison en espérant des nouveautés. Enfin, je suis pas sûr que ce soit très productif, quoi. C'est la méthode qu'a marché avec Ferrari, c'est ce qu'il a fait l'an dernier en leur donnant le temps, en allant les chercher, en étant exemplaire sur la piste. Le problème, c'est que cette année, on a un peu l'impression qu'il demande tout à Ferrari et que il a un peu décidé de lui ne pas faire tout. Mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Ferrari n'arrive pas à te donner ce qu'il faut. Donc, c'est aussi à toi de leur montrer que tu lâches rien. Et le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que Alonso est en train de montrer qu'il lâche un peu l'affaire. Et que, du coup, c'est comme une Ferrari fonctionne aussi un petit peu à cet instinct-là, Ferrari est en train un petit peu de lâcher l'affaire. Et c'est là où je suis content de la réaction de Montezemolo.
Mais si les deux se tiennent pas, si les deux se soutiennent pas, ça marchera pas.
Ils ont besoin d'un moteur, Ferrari. Et c'est Alonso ce moteur depuis trois saisons. Et là, cette année,
Et là, cette année, c'est tendu. Parce que c'est bien parti. Et là, il commence à avoir le tour en W. Quoi. Donc, il sent que ça lui échappe. Et là, avec ils sont quatre maintenant. Il y a Hamilton, Vettel, Raikkonen et lui. Et il n'aura pas la constance de Vettel. Et donc là, il sent que ça part. Et du coup, il se dit foutu pour foutu. J'essaye de remuer le...
c'est remuer le cocotier, quoi, mais...
Le cocotier, mais c'est un peu le désespoir qui arrive, hein, je crois. Honnêtement, là, il voit bien, il pourra pas répéter les saisons comme il a fait l'année dernière. Et il stagne, mais il fait toujours son job, ça j'en doute pas, mais il est pas appliqué à 120% comme il l'était.
On a un peu là, le Alonso qu'on a pu voir parfois en fin de saison.
que ce soit l'année dernière ou même il y a deux ans. Alonso qui subit un peu les grands prix, qui
ah oui, il est un peu désabusé,
pas, quoi. Qui est pas au taquet, quoi. Bon, après, c'est tout, enfin, c'est toujours très propre, c'est toujours, les départs sont toujours magnifiques. Enfin, voilà, je suis le premier à m'enthousiasmer d'Alonso, mais c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, on n'a pas l'impression qu'il se donne à 100%. Puis je le comprends qu'il se donne pas à 100%. C'est dans la vie d'un pilote aussi, c'est compliqué de te dire, tout le monde dit que je suis le meilleur et compagnie, mais en ce moment, j'arrive pas à être champion. En ce moment, il n'arrive pas à gagner des courses. Il n'arrive pas à être en pôle. Enfin, tout ça, ça doit jouer dans sa tête, mais.
Ah, puis il y a l'accumulation, hein, des saisons Ferrari, n'empêche là. Et ça commence à peser, le quatrième saison, là, sans, où il vise le titre, enfin, en tout cas. Voilà.
Attends, je calcule. 80, 96, 97, 98, 99, 2000. Bon, l'année prochaine, Fernando.
Et 5 après.
On te répond cette année, ah, Ferrari.
Peut-être,
sont,
hein, peut-être.
Constructeurs.
Bon, ouais, c'est même pas. Allez, à la cinquième place, il a marqué 1295 points. C'est Mark Webber. Gilles, 10 points. Dino, 12 points. Steve, tu lui as donné 15 points.
Bah oui, comme je suis parti du classement et puis que j'ai vu les Red Bull 3 et 4, que Vettel avait fait une course classique, mais sans éclat, j'allais dire, sans être méchant. Hein, mais... Et du coup, j'ai promu Webber chez le podium, du coup. Avec sa stratégie décalée, il avait un bon rythme au début de course avec les pneus durs. Et du coup, je trouve qu'il a bien émergé. Avec les problèmes qu'il a eu en qualif, c'était pas une situation évidente. Il a su profiter de sa stratégie décalée. Et bon, et on voit aussi que la Red Bull est quand même une bonne voiture. Il finit à 6 secondes de Vettel. Donc, c'est une bonne course et il a fait un bon départ pour une fois. Il partait du côté sale et malgré ça, je crois qu'il est 7 ou 8 à la fin du premier tour. Il a gagné 2 places, donc voilà.
J'ai même cru à un moment donné qu'il pouvait gagner. S'il restait sur deux arrêts, je pense en tout cas, il avait sûr un podium. Après, est-ce qu'il pouvait vraiment tenir une stratégie à deux arrêts, c'est une autre question. Mais à un moment donné, ouais, pour moi, ça jouait entre lui et Hamilton. C'est le seul que je voyais vraiment.
Il y a un moment, il est deuxième, et puis il y a toujours eu ce doute sur Hamilton. Donc, ouais, c'est vrai que on pouvait peut-être pas y croire, mais on pouvait penser qu'il y avait un truc à jouer.
Bon, ce qu'il faut se féliciter, son Kers a remarché.
Oui, non, mais ça, c'est le plus grand mystère de l'humanité, ça, son Kers.
C'était les batteries, je crois. Il y a problème de batteries ce week-end. Les batteries qui fonctionnaient pas bien, et ce qui fait qu'il pouvait pas
changer son Kers. C'est Vettel qui a eu des problèmes de Kers en course.
Oui, en course, ouais. Mais tu vois, Vettel, quand il a un problème de Kers, il peut pas le charger à fond. Il peut pas l'utiliser à pleine puissance. Mais au moins, il peut l'utiliser un peu. Il doit y avoir un mode spécial. Je pense que le Kers de Weber, il est conçu pour quand il y a une merde.
Il se désactive.
Le Kers se bloque.
C'est on-off. C'est on-off.
Et le Kers de Vettel, quand il est en panne, il se passe à 30%.
Bah, Vettel, on peut continuer, qui a fini 4e avec 1446 points. Moi aussi, je l'ai mis 4e. Dino, tu l'as mis 3e.
Du coup.
Bah, il fait le course, il est incisif. Alors moi ça m'énerve toujours quand Villeneuve dit la fin, ah il fait des erreurs, il craque et compagnie. Ben oui, mais au moins il a tenté, quoi. On a été dire après la course que Vettel, ah oui, quand il essaie d'attaquer compagnie, qu'il était sous pression, il craquait. Ben non, il craque pas, mais c'est juste qu'à un moment donné, on est sur le Hungaroring. Depuis le début du Grand Prix, tout le monde essaie de faire des dépassements, il y en a quasiment aucun qui passe. Il a essayé, c'est sûr qu'il aurait pu essayer 2-3 virages plus loin. Ça aurait sans doute fait la même chose. Donc voilà, moi je trouve qu'il a été incisif. C'est comme tout le temps, il lâche jamais rien. Et moi, c'est pour ça que j'aime ce pilote. Il ne lâche jamais rien. Il a la voiture pour jamais rien lâcher. Il lâche jamais rien. Il a tenté d'aller chercher la deuxième place. Ça n'a pas marché. Voilà, c'est comme ça que ça fait. Mais c'est vrai que ça commence à m'agacer, ces réactions derrière. Je suis désolé, mais Alonso, on l'a vu faire exactement le même type de course l'année dernière ou il y a 2-3 saisons. Il faisait exactement pareil. Il tentait une attaque un peu n'importe comment sur le dernier tour ou l'avant-dernier tour. Et là, on disait, ah ouais, mais il a essayé, c'est un attaquant et compagnie. Bah là, Vettel, c'est pareil. Enfin, voilà, il a essayé, ça a pas marché. Il souffre un petit peu quand même de s'être retrouvé derrière Button. On en a parlé un peu tout à l'heure. Je pense que là, pour le coup, il y a un problème sur la Red Bull qui a dû l'handicaper pendant la course. Mais sinon, enfin,
c'était le Kers.
Non, c'était à ce moment-là. Le Kers, c'était après. Non, c'était en plus, ça s'ajoute au problème de Kers. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'il fait une course.
Oui, bon, il s'en sort honorablement troisième. Hein. De toute façon, faut pas oublier qu'il est devant Alonso, il lâche que 3 points à Raikkonen, voilà, bon, il a augmenté son avance.
Et puis, sur le Hungaroring, il fait la course, entre guillemets, qu'il faut faire. C'est-à-dire que t'as deux courses sur le Hungaroring. C'est soit tu fais ce qu'a fait Raikkonen, donc tu prends ton mal en patience, tu fais une stratégie, tu te tiens à ta stratégie jusqu'à la fin, en espérant que ça a souri à Raikkonen, ou alors, t'essayes de créer des opportunités, et c'est ce qu'on fait, Vettel, c'est ce qu'a fait Hamilton. Hamilton a été très incisif sur chaque manœuvre de dépassement, c'est ce qu'a fait Grosjean, voilà, c'est les deux courses que tu peux faire. Tu peux pas être dans le juste milieu. C'est soit tu es dans une position d'attente, soit tu y vas à fond et t'essaies de créer des opportunités. Pour moi, il a essayé, donc voilà, ça n'a pas été une course confortable. Bravo à lui, quoi.
Ah, mais il gère bien son championnat, ça on peut pas l'aider.
Il est plutôt content de sa première moitié de saison.
Oh, bah, il peut. Je pense qu'il peut largement. Et c'est encore une course qui lui échappe, celle-là. Hein. Les États-Unis, puis celle-là, c'est les deux seules qu'il n'a pas gagnées encore. Et tout comme Red Bull, d'ailleurs.
C'est bizarre, quand même, Vettel. Tu devrais gagner sur un circuit que j'aime. Ah. Sébastien, si tu m'écoutes, gagne l'année prochaine.
Bah, Alonso à Spa, on l'attend encore, oui. Hein, aussi. Mais Spa, c'est encore pire. C'est le seul circuit où Alonso en Ferrari n'a pas fait de podium. Spa.
Ouais.
Et donc, je crois que cette année, ça va être... Oh, si, cette année, il peut.
Pourtant, Kimi n'était pas là 2 années de suite, hein. ça libère déjà une place sur le podium en règle générale. Et donc, sur le podium du SAV cette semaine, vous en doutez, il y a les deux Lotus. Et à la troisième place, il a marqué 1715 points. C'est un pilote Lotus. Je l'ai mis deuxième comme Dino. Mais Steve, tu lui as donné 8 points.
Oh non.
C'est Romain Grosjean. Parce qu'il était 6ème.
Moi, j'ai mis 6ème au classement. Et oui, non, mais bêtement, j'ai pensé de mettre aussi 3 ou 4. Il a été... Comment dire ? Tout allait bien jusqu'à qu'il se retrouve vers Hamilton.
Ah, il nous a tout fait, ce week-end.
Et voilà, bon, après, c'est évidemment pas de sa faute. Quand la stratégie, quand il repart derrière, bon, en même temps, l'équipe fait ce qu'elle peut pour essayer de le dégager la route. Mais puis je vois encore Eric Boullier qui le soutient. Je suis désolé, il a
avec
fait
Button. Avec Button.
On le veuille ou non, il l'a reconnu, mais pourquoi Boullier dit il a fait le week-end parfait? Je suis désolé, non. S'il avait fait le week-end parfait, il serait qualifié en première ligne, il aurait double Hamilton au premier arrêt, il aurait gagné. Voilà, c'est tout. Il a fait une bonne course, une petite erreur d'approximation, jugement, à côté de Button. Bon, ça peut arriver. Hungaroring, comme on disait, c'est étroit. Là, et après, il a fait du coup un arrêt de plus. Parce que du coup, il était en 3 arrêts, il devait faire 2 comme Kimi, non, à la base. Parce qu'il a eu un arrêt assez tôt vers la mi-course.
Son premier run en médium est
son premier arrêt est assez tôt. Son premier arrêt, il est en stratégie à 3 arrêts. Mais il est obligé d'être en 3 arrêts. Il peut pas être en 2 arrêts face à Hamilton et Button. Ça, c'est une stratégie qui est bonne quand tu pars 5-6e. Comme m'a fait Raikkonen, mais quand tu pars troisième et que tu sais que la troisième place au Hungaroring vaut à une deuxième place, tu pars sur une stratégie.
Vous pensez quand même que le deuxième arrêt serait quand même un peu plus loin.
Ah bah oui, non, mais c'est clair qu'ils se sont arrêtés.
Oui, voilà,
et là, pour le coup, c'est entièrement de la faute de Romain. C'est-à-dire que là, pour le coup, on peut pas dire que c'est la stratégie Lotus qui a foiré. C'est Romain qui touche une voiture. La décision est plutôt intelligente de la part de Lotus de l'arrêter pour éviter d'autres problèmes, vérifier en visu la suspension, etc. Bon, voilà, après.
Et ce que je disais, c'est qu'il s'est retrouvé derrière. Lotus a fait ce qu'elle pouvait en stratégie. Lui, il s'est retrouvé derrière. Il a voulu rester bloqué. Il s'est un peu précipité, quoi. Et du coup, ça l'a desservi. Et puis, bon, pour l'incident avec Massa, bon, évidemment, il y avait rien, là. On peut pas.
C'est là où il y a vraiment un truc qui se casse sur le rythme de course de Grosjean. Et alors après, en effet, sur le le cas Grosjean Massa ou même Massa dit que Grosjean aurait pas dû être pénalisé.
Alors en disant un argument quand même qui est faux, que pour lui il a les roues sur la ligne.
Ce qui est pas vrai.
Ce qui est pas vrai parce qu'on voit bien qu'il a les roues à l'extérieur. Maintenant, c'est une application qui est très sévère du règlement. D'abord, et moi, c'est ce qui m'a énervé, et c'est ce que j'ai réagi d'ailleurs sur Twitter, c'est que d'abord, c'est un endroit où, globalement, les pilotes mettent généralement la voiture derrière la ligne. Si ils peuvent mettre la voiture derrière la vibreur, il n'y a pas de problème.
C'est pratiquement la trajectoire.
On a d'ailleurs un Sébastien Vettel qui est sorti de la course. Je suis fan de Vettel, attention. Donc, je rappelle aux gens qui découvriraient, je suis hyper fan de Vettel, j'adore ce pilote, je lui veux 15 milliards de titres.
Mais théoriquement, il aurait quand même dû recevoir un drive-thru parce que quand il chausse ses pneus neufs et qu'il se lance à la chasse à Raikkonen sur la fin, dans le premier tour rapide qu'il fait, par deux fois, il passe les quatre roues de la ligne blanche et il n'est pas sanctionné. Alors que le règlement stipule bien qu'il est interdit pour un pilote de sortir sans motif légitime de la piste. C'est ça le point de règlement. Il y a aucun, dans le règlement, on dit pas qu'il est interdit, on dit qu'il est interdit de dépasser à l'extérieur de la piste. On dit qu'il est interdit de sortir de la piste ou de tirer avantage en
dépassant. Sachant qu'il tire pas d'avantage.
Tirer avantage. Tirer avantage, ça veut dire dépasser, ça veut aussi dire gagner du temps. C'est le cas de Vettel qui sort par deux fois, qui reprend une seconde et demie sur ce tour-là, ou une seconde et demie, ou deux secondes sur Raikkonen, donc il gagne du temps. Donc c'est un peu le problème, c'est qu'on a l'impression que Grosjean, la moindre chose, on ne lui pardonne pas, là où les autres, pendant tout le week-end, et même sur les forums britanniques, même dans les médias britanniques, on s'est interrogé sur ça, pourtant c'est pas forcément les plus tendres avec les Frenchies, mais on s'est posé la question de la légitimité de la pénalité qui avait été infligée à Grosjean, et il y a un vrai problème auprès de la FIA sur ça. Voilà, dès que Grosjean est là on lui met deux pénalités. Enfin, c'est quand même la première fois cette saison qu'on voit un pilote deux fois pénalisé pour des erreurs qui sont pas bien méchantes. Enfin, on a vu pire, oui, cette saison. On a vu Perez et Raikkonen par deux fois s'accrocher. Ça aurait mérité des sanctions plus lourdes. Il y a quasiment rien eu. Là, Grosjean, il est optimiste sur Button.
Mais là, il y a une erreur. Il pas là, non là, plus la place. C'est logique quand même.
Oui, il se décale sans penser que Button est là.
Ce qui est pas normal, voilà, c'est qu'il y a cet incident-là et après il y a le dépassement pour
ils font une sanction pour Massa en
premier dans la course.
C'est ça, il y a quelque chose dans la gestion. Je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne.
Et sur la prise d'avantage sur le dépassement de Massa, j'irais même parce que bon déjà en temps, je pense pas qu'il ait gagné beaucoup de temps, mais même sur le dépassement. J'ai envie de dire, il avait dépassé quand il sort de la piste, il a déjà dépassé. Parce que.
Et le pire, c'est que c'est un beau dépassement.
En plus, dans les SAV, je me suis assez plaint que souvent on considérait qu'une voiture avait dépassé alors qu'elle avait, c'était juste décalé, puis t'avais limite l'aileron avant à hauteur des pneus. C'est bon, le dépassement, il est bon. Loin de là. Alors que là, quand il sort, il y a quand même près de la moitié de la Lotus qui est devant la Ferrari. La Ferrari, elle est à peu près l'aileron avant au niveau des rétros.
Mais le pire, c'est qu'il y en a même certains qui estiment que la pénalité, elle aurait dû aller à Massa, parce que Massa contraint un de ses adversaires à sortir de la piste. Parce que si on regarde vraiment la vidéo, ce qui se passe, c'est que Grosjean, il sort, il met les quatre roues de la ligne blanche pour éviter d'accrocher avec Massa. C'est Massa qui dépasse à l'extérieur par une Lotus avec de meilleurs pneus et avec une meilleure vitesse, aurait dû techniquement laisser la place à Grosjean, ce qu'il n'a pas fait, il l'a contraint à sortir de la piste, donc c'est Massa qui devait être pénalisé. Et c'est Grosjean qui se retrouve pénalisé. Mais de la même manière qu'on a eu, effectivement, on a parlé du cas de Kimi Raikkonen, Vettel au même endroit tente l'extérieur aussi, Kimi Raikkonen se fout en plein milieu de la piste, il n'y a quasiment pas la place pour laisser les voitures passer, il n'y a pas de pénalité. Vettel tasse quasiment Grosjean et lui laisse très peu de place au départ, il n'y a pas de pénalité. Je crois que c'est Weber ou Hamilton qui tasse et qui force Weber à aller à l'extérieur, il n'y a pas de pénalité. C'est bizarre, pour ces mecs-là, il n'y a pas de pénalité, pour Grosjean, c'est quasiment systématique, quoi.
Ah, là, il y a un vrai problème, hein, à ce niveau-là.
Le problème, c'est qu'on a, on a une FIA qui veut nous faire croire qu'ils vont essayer d'avoir des sanctions plus justes et compagnie. Et donc, on voit clairement qu'aujourd'hui, ils jugent au passif.
Oui.
Certes, Grosjean, c'est
la tête du client, hein.
Mais là, pour le coup, on peut pas dire que ce soit quelque chose de inné chez Grosjean que dépasser les pilotes à l'extérieur. Le dépassement, il est magnifique. Je suis d'accord que, à la limite, si on est vraiment con et
sur
le règlement,
il a les quatre roues dehors.
Il a les quatre roues dehors, et il dépasse, ok. Mais dans ce cas-là,
là, ils ont qu'à mettre une caméra, et puis tous ceux qui passent, ils
dans ce cas-là, qu'on l'applique à tout le monde, qu'on l'applique en qualif, en course, et que vraiment qu'on soit sévère. Là, on a un peu l'impression qu'on est sévère que sur Grosjean. Je trouve que c'est pas bien pour Grosjean, mais c'est pas non plus bien pour la FIA, parce que ça donne une image de leur décision qui est la même, en fait, que ce qu'on a tout le temps, c'est que rien ne change, et que la FIA décide un peu n'importe comment, il y a personne dans la
tu dis quoi, que et... ça, il est condamné, enfin, je veux dire, alors voilà, il est obligé de faire des choses parfaites, parce que dès qu'il va sortir de piste, entre guillemets, on va le sanctionner, mais combien de temps ça va durer?
Ça peut durer tout le temps, ça, hein. Franchement, honnêtement, c'est, il peut le traîner tout le long de sa carrière, ça. Non, mais c'est, je pense que la FIA, ils doivent se dire, on va, comment dire,
On va régulariser, non, ce serait un gros mot.
Parce que même l'an prochain, avec leur permis à points, ça change rien. Hein. Si ça se trouve, c'est juste que Romain Grosjean perdra les points plus rapidement que les autres. Hein.
Ah oui, oui, ce serait pareil. Mais non, mais j'ai envie de dire qu'il... Ils l'enfoncent en fait. Ils se disent si on entre guillemets on tape sur lui, les autres ça va les calmer. C'est le bouc émissaire en fait.
Un peu le mec qui sert d'exemple. C'est déjà le truc de l'an dernier.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a par exemple il y a 4 mecs qui vont faire une connerie et c'est lui qui va prendre parce que c'est lui.
Et parce que c'est un mec sur lequel on peut se permettre de taper.
Voilà.
Il
oui,
est
c'est
pas
ça,
champion. C'est le bouc émissaire. Il n'est pas vainqueur de Grand Prix. Il est français. Il joue voilà. Pas le championnat. Il n'a pas un gros sponsor derrière lui. C'est la cible idéale. C'est le mec qui est suffisamment bien placé, qui est dans une équipe suffisamment bien placée, mais qui est pas véritablement une menace, qui va pas entraîner le départ d'une équipe, qui va pas entraîner le départ d'un sponsor, qui va fâcher personne. On peut lui faire ce qu'on veut. Il y aura pas de retour.
Là, c'est clair qu'il y a ça. Hein. C'est clair. Et puis lui, du coup, ça le travaille. Et puis comme c'est un pilote qui marche aussi beaucoup au mental, du coup, ça le perturbe. Mais est-ce que je pense qu'un jour quand même ça va bien s'emboîter, il n'y aura pas de problème, ça va marcher. Mais au fond, là, on voit bien qu'il traite ses casseroles.
Surtout ce qui est terrible, c'est que c'est quand même un pilote cette année, on peut pas lui reprocher.
Pas plus que d'autres, hein.
Il s'est fait avoir. Donc, sincèrement, il s'est très peu fait remarquer. Autant l'an dernier, il n'avait pas été sanctionné. Mais quasiment un Grand Prix sur deux, il y avait un problème avec lui. Là.
Mais est-ce que c'est ça aussi, la FIA? Est-ce que d'une certaine façon, ils se disent, c'est comme s'il avait des pénalités en retard, j'allais dire. Ils se disent, ah, on l'a pas assez sanctionné cette année, on va plus le surveiller.
Mais, oui, d'accord. Je pense que c'est.
Et du coup, c'est un peu ça. C'est lui qui prend.
C'est un peu ça. Ouais. C'est un peu, tu sais, c'est un peu comme les parents qui sont jamais sévères envers leurs gosses. Et le jour où ils sont sévères, la punition est disproportionnée en aucun rapport.
Double.
Ils se mettent à sanctionner tout et n'importe quoi.
Mais il y a de ça, quoi.
C'est vrai que c'est un peu ça. Je pense que c'est, sincèrement, pour moi, Grosjean aujourd'hui, c'est la cible idéale pour la FIA pour faire preuve d'autorité. Et que, il y a aussi le.
Il noie l'œil.
Cette année, en dehors de Monaco où il fait une boulette, sincèrement, je trouve pas qu'en termes de pilotage, on ait grand chose à lui reprocher. Là où il y a des pilotes qui ont été un peu plus à la limite. Je suis tout à fait d'accord avec Jacques Villeneuve. On va encore dire que je suis anti-Kimi Raikkonen, mais je suis tout à fait d'accord avec Jacques Villeneuve quand il dit que Raikkonen, plusieurs fois depuis le début de la saison, est très limite dans ses actions. Je vais même pas hésiter à dire limite à s'inspirer de Michael Schumacher sur certains points. On a eu qui d'autre? On a Pastor Maldonado qui s'est un peu calmé, mais l'an dernier et cette année, il en a aussi fait. On lui a rien dit. Voilà, des pilotes rugueux, depuis le début de saison, il y en a, et qui n'ont pas été autant sanctionnés que Grosjean, quoi.
Passons justement à la deuxième place, et tu viens de parler de lui. C'est Kimi Raikkonen, 1880 points. Je l'ai mis troisième, tu l'as mis cinquième, Steve l'a mis deuxième. Carrément deux. Au classement.
Deuxième, oui, au classement, et le classement reflétait bien, pour une fois, j'allais dire, mon sentiment, donc en fait, c'était assez facile, et bon, il a bien appliqué sa stratégie, un peu comme Weber, et ma foi, bon, je trouve que sa défense contre Vettel était virile, mais correcte, et que, sans faire de vagues, en partant sixième côté sale, il a fait ce qu'il fallait, quoi,
sur Raikkonen, quoi. Étonnamment bonne, c'est-à-dire que face à un Grosjean qui, honnêtement, depuis le début du week-end, roulait super bien.
Oui, là, c'était l'épouvantail, là.
Avant la course, je me disais, ouais, il va faire une course très moyenne. On sentait qu'il, voilà.
Mais en fait, je me suis dit, il s'en sort bien.
J'avais l'impression qu'il allait faire une course. Finalement. On n'allait pas le voir et bon, il allait pas faire grand chose. Et finalement, il finit deuxième, en effet. Oui.
Mais on l'a pas vu pendant la course.
Moi, c'est
un peu le problème que j'ai avec la course de Raikkonen. C'est une très belle course, stratégie bien appliquée. Maintenant, on peut pas retirer sa stratégie, qu'il y a quand même tous les pilotes devant lui, sauf Lewis Hamilton, qui se sont retrouvés coincés derrière Button, qu'il y a eu un petit train qui s'est formé, et qu'en faisant un arrêt de moins, donc en économisant, je crois que c'est une grosse vingtaine de secondes, il pouvait plus facilement se retrouver devant. Donc, moi, je trouve pas, je me suis un peu pris de tête là-dessus d'ailleurs sur Twitter, à un moment donné, la course de Raikkonen, Elle est belle, voilà, c'est une belle stratégie. Maintenant, sincèrement, si ça vous plaît comme course de Raikkonen, mon Dieu,
il a fait
10 fois mieux. C'est une belle course. Maintenant, si quand Raikkonen prend le départ, qu'il est sixième, qu'avec une stratégie, avec un arrêt de moins que les autres, que les autres sont retardés par Button et qu'il finit
surtout
deuxième,
en plus, il a dit après,
comme certains peuvent le faire,
oui, non, mais il espérait peut-être viser Hamilton. Honnêtement, non, non, non.
Non, non, Hilton, même Vettel, déjà, c'était déjà... Le Vettel était le seul à pouvoir aller le chercher.
Moi, on m'a désigné sur Twitter comme le mec qui casse du sucre sur le dos de Raikkonen depuis 2 ans. Je vais quand même rappeler que Raikkonen est un pilote que j'adore, que j'ai adoré, que j'ai supporté chez Ferrari, qui est vraiment un pilote que j'affectionne. Maintenant, je reconnais que j'ai deux problèmes avec Raikkonen. Le premier... problème que j'ai avec Raikkonen, c'est même pas avec Raikkonen, c'est avec les fans de Raikkonen. Je trouve que les fans de Raikkonen en font beaucoup trop autour de ce type. Ça, c'est un problème que j'ai avec les fans de Raikkonen. Le deuxième problème que j'ai avec Raikkonen, c'est que je trouve malheureusement que ce pilote hyper talentueux, avec un pilotage, quand il attaque, c'est juste des caméras embarquées de Raikkonen chez Ferrari ou chez même McLaren. Enfin, Shinji, depuis le temps qu'on se connaît, il était fan de Kimi Raikkonen et il m'a dit, mais tu vas voir, faut que tu regardes ses caméras embarquées, il est génial et compagnie. Qui est arrivé chez Ferrari, j'ai commencé à regarder et je me suis dit, ouais, ce mec en caméra embarquée, il est incroyable. Et c'est vrai que ce mec, il est tellement incroyable au volant, je trouve que le problème de Raikkonen, c'est qu'il a une Lotus entre les mains. Et qu'il a une Lotus qui économise ses pneus et qui lui permet pas de mettre en valeur ses qualités d'attaquant tout en étant économe. Et c'est ce qui fait que l'année prochaine, j'ai envie de le voir dans une Red Bull. Mais voilà, enfin, c'est parce que je trouve aujourd'hui c'est un pilote, autant il colle avec l'image de l'équipe Lotus, enfin, voilà, c'est en termes de com et tout, c'est une très belle équipe, autant je trouve il ne va pas avec cette voiture. J'ai un problème de Raikkonen avec cette voiture. Aujourd'hui qu'on se réjouisse de voir Raikkonen faire une stratégie à deux arrêts et finir deuxième.
Mais tu sais, quand il y a des inquiétudes sur Raikkonen chez Red Bull, c'est uniquement sur les questions marketing, hein. C'est juste ça. C'est parce qu'on se dit, ouais, le problème, c'est que bon, Red Bull, c'est beaucoup plus cadré et il risque de lui imposer tous les trucs qu'il aime pas. Et c'est justement, c'était le bon côté chez Lotus. Alors par contre, oui, c'est bah oui, là, oui, je veux bien une Raikkonen dans une Red Bull, ouais.
Mais c'est ça, je trouve dommage, c'est que je trouve qu'on se contente d'un Raikkonen qui aujourd'hui ne peut pas montrer. Sincèrement, ce qui est agréable avec Lotus, c'est qu'il montre aussi sa maturité. C'est un pilote dont on critiquait l'implication, le dévouement technique et compagnie. On disait que c'était un petit peu un mec qui attaquait, et ouais. Il prenait la voiture, il faisait 100% de la voiture. Là, on peut quand même reconnaître que c'est un mec qui s'adapte parfaitement à la voiture. Techniquement, quand même, Lotus tourne pas mal. Il a de bons retours. Voilà, pour moi, c'est la révélation de Raikkonen, c'est surtout sur sa
tête. Maintenant, en termes de pilote, je suis désolé.
Sincèrement, pour que le fait marquant de Raikkonen l'année dernière ce soit, mais laissez-moi tranquille, je sais ce que j'ai à faire, ou, ah, je me suis perdu, la barrière est fermée. Merde, quoi. Moi, Raikkonen, je veux le voir dans une voiture où il peut s'éclater avec. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que Kimi Raikkonen puisse véritablement s'exprimer avec la Lotus.
C'est les qualités même de la Lotus qui le...
Oui, voilà. Il doit se dire, c'est notre atout, on va utiliser comme et ça, et
pas,
puis tu vas finir sur le podium. Ils
peuvent pas non plus adapter la voiture, faire une voiture sur mesure pour Raikkonen, ils en ont pas les moyens.
Non.
Surtout voilà, là où ça serait possible dans d'autres équipes, c'est justement ce qu'il faut mettre en valeur, c'est que Kimi Raikkonen s'adapte à une équipe, à un fonctionnement, qu'il en est le leader, à sa manière, mais il en est le leader. Voilà. Il a fait montre de qualité, que moi-même je ne soupçonnais pas. Et il m'a tellement déçu, la dernière saison chez Ferrari, que là, je suis obligé de dire que s'il avait été comme ça chez Ferrari, mais alors je lui refaisais signer un contrat de 10 ans. Faut quand même rappeler que je ne voulais pas d'Alonso parce que je voulais garder Raikkonen. Contrairement à certains autres fans de Ferrari qui, s'ils écoutent cette émission et qui ont participé il y a quelques années, se souviennent, je n'ai pas viré Macuti très vite sur Alonso. Il a quand même fallu qu'il descende en hélicoptère.
Allez, je vous propose de passer au vainqueur de la course, au vainqueur du classement du SAV, avec 2521 points. On l'a tous les trois mis premier, hein. Et c'est presque une surprise quand même, faut le dire. C'est Hamilton. On s'attendait tous avec la chaleur qu'il a fait tout le week-end. Ouais, vous allez voir, la Mercedes, ça va être comme d'hab, ils vont partir, puis il va finir 8e.
Mais sincèrement, on s'attendait tous à une victoire de Grosjean en se disant, en Hongrie, il part troisième, il va se faire Vettel au premier virage, il sera derrière Hamilton, il va juste avoir à attendre que les mouches tombent. Voilà.
Ouais, ouais. Et non. Mais comme quoi, hein, il se passe pas ce qu'on pense. Hein. Ah ouais. Non, mais déjà la pole, comme je disais tout à l'heure, c'était déjà une pole un peu surprise.
C'est moins surprenant de la part d'une Mercedes de faire une pole.
Aux essais, voilà. Vettel... Oui. Mais de ce week-end précis, Vettel avait quand même l'air bien à l'aise. Et après, dès la Q1, déjà, on a vu Rosberg, Q2 aussi, je crois.
Sur la qualif, ce qui était impressionnant, c'est de voir, par exemple, Grosjean qui tournait super bien, faire des super temps. Tu te dis, ouais, voilà, c'était vraiment des super temps. Ouais, sauf que au-dessus de lui, il y avait un type qui faisait des temps monstrueux, et puis il y en avait un autre qui faisait des temps stratosphériques. C'est une très belle qualif. C'était une très, très belle qualif, je trouve, cette semaine.
C'est ça qui est étonnant sur la qualif, c'est qu'on a trouvé le temps de Vettel absolument monstrueux, ça nous a étonné, et on est un petit peu resté quasiment, moi sincèrement sur la fin de la qualif, je suis quasiment resté sur ma fin de me dire ce que je croyais.
Je pensais être parfait.
Qu'il avait été un superbe tour de Vettel. Je me dis merde. Et du coup, j'en ai pas savouré en fait le tour d'Hamilton. Je pense qu'il faudrait que j'arrive à le regarder compagnie en caméra embarquée, parce que en fait, je me suis dit bah ouais, en fait, c'était facilement battable. Hamilton a réussi à battre Vettel quoi. Et c'est, pour moi, ça en a quasiment banalisé l'exploit. Je me suis dit bah ouais, bouf, bah voilà.
Il y a alors quoi, il y a 38 millièmes.
Alors que voilà, parce que le tour que claque Hamilton, il est juste. Mais encore une fois, c'est un pilote comme c'est moi, c'est la deux grandes qualités. Tu le disais tout à l'heure, Steve. C'est pas pour rien si c'est les deux mecs qui ont aujourd'hui le plus de. Enfin, je crois que Alonso est entre les deux en ce moment, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est les deux hommes qui ont le plus de pôles, qui ont le plus de première ligne en ce moment.
Mais les pôles, si.
Sur les pôles aussi, ils sont tous les deux devant.
Alonso, il en a que 22, je crois. Et puis Hamilton, 30. Ah non, mais ça fait un moment qu'Hamilton est
mais blanc, ils ont cette capacité à te claquer le tour au moment où il faut, quoi.
Ah, mais les deux.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les pneus Pirelli, quand t'as une fenêtre de tir qui est très précise, c'est une qualité qui est,
Et la Mercedes, elle est bien armée pour ça.
La Mercedes est bien armée pour ça, et puis il y a aussi cette capacité du pilote aussi. Je pense que c'est
oui, il l'amène,
c'est peut-être aussi ce qui fait défaut, et on l'a vu plusieurs fois. Je me souviens d'ailleurs d'un Grand Prix de qualif en Hongrie, je crois l'année dernière ou il y a deux ans, où Alonso avait été passé à la trappe, il était derrière Massa parce que voilà, il avait raté son tour. Je pense que c'est aussi le problème d'Alonso, c'est qu'Alonso est un pilote qui peut être très rapide en qualif, mais il a un peu besoin de se chauffer. Là où c'est quasiment des robots en face, hein, les mecs, voilà.
Alonso, c'est pas sa spécialité, la qualif.
Le mec, il sort un tour. Alonso, il peut être aussi rapide, mais il va lui falloir un ou deux tours. Oui. Je pense que c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'Alonso, bah, il faut qu'il se fasse une raison, quoi.
Et non, c'est vrai qu'après Hamilton, en course, après, même le déroulé de course, il a pas eu trop de soucis. Quand il ressort de son arrêt, il est derrière Button. Ça aurait pu être un gros problème. C'est un gros problème.
Bah, au début, on a
pensé que c'est, il le passe en un seul tour.
Pour lui, quoi.
Beaucoup auraient aimé passer Button en un seul tour.
Et il l'a passé facilement, hein.
Parce non, parce qu'après, il remonte à la deuxième place, mais Weber a pas encore ravitaillé. Non, globalement, il a presque eu une course presque tranquille, hein, finalement.
Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu une course où...
Comme souvent cette année, le gars qui est devant, qui a l'air libre, il fait sa stratégie, ça roule et ça gagne.
Il a la chance de, que Button s'intercale entre lui et les autres. Et puis, il a su aussi saisir.
Il a l'air libre devant.
Il a su aussi saisir, ne pas perdre de temps, saisir les opportunités sur Weber. Enfin, dès qu'il y avait un mec sur son chemin, très vite, il le déplaçait. Oui, oui. Enfin, voilà, il a su,
Il a construit sa victoire sur ça, hein.
C'était une course très intelligente, je trouve. Voilà.
Oui.
C'est ce que j'aime beaucoup. Encore une fois, moi, j'ai toujours parlé avec les fans de Lewis Hamilton.
Tu adores les pilotes, c'est les fans qui t'aiment pas.
J'ai beaucoup de monde. J'ai beaucoup aimé le commentaire d'Hamilton qui a dit que c'était une victoire très spéciale.
Mercedes.
Et on le comprend, c'est sa première victoire chez Mercedes, qui est quand même devenue, chez certains, c'est sa plus belle victoire.
Non, c'est une victoire spéciale.
Moi, je me rappelle d'un Grand Prix en Grande-Bretagne où là, on peut dire que c'est sa plus belle victoire. C'est voilà. Mais là, pour le coup, ouais, il a une course, il a profité des opportunités. Voilà, il a exploité, il a suggéré ses pneus et compagnie. C'est bizarre, il a suggéré ses pneus.
Il a pris un très bon départ aussi.
Non, c'est vrai.
Oui.
Il a pas été du tout menacé au.
Il faut dire que lui prend un bon départ et que les deux autres derrière en prennent un pas très bon.
Oui, oui.
Et que très vite se retrouve avec les mecs de la troisième ligne qui eux ont pris un bon départ aussi.
Du coup, ils étaient quatre derrière.
Donc, quoi. C'est vrai qu'il a eu, je crois que même à la fin du premier tour, il a une seconde 2 ou une seconde 3 d'avance, quoi. Enfin, voilà, il fait un creux sur le premier tour qui est gigantesque. Et après?
Non, puis il avait un bon rythme long aussi, hein. Franchement, à part Vettel, il est.
Sincèrement.
Qui aurait pu le menacer, mais après, il était.
Sincèrement, sans Button, je pense que la course est un peu plus difficile pour Hamilton.
Un peu plus sérieux.
Mais je pense qu'il gagne quand même.
Ça roule, oui, mais ouais.
Vettel aurait été dans
sa
roue jusqu'au bout.
Et ça promet pour le reste de la saison, parce que là, entre guillemets, il saute quand même un verrou. C'est-à-dire que ça, là, maintenant, on peut dire qu'on sait pas ce que va donner la fin de saison, mais au moins, on peut dire qu'il n'a pas raté sa première saison avec Mercedes.
Bah, on peut déjà dire qu'il a plus de victoires que ce qu'il aurait pu espérer chez McLaren.
Parce que je me souviens quand Rosberg a gagné, on avait commencé à dire, mais attendez, si Rosberg est le seul à gagner et que Hamilton ne gagne pas, là non, c'est bon, les deux ont gagné. Bon, il y a 2-1, mais oui. Voilà, les deux ont gagné.
Mais là, et en plus, à Silverstone, il était devant, hein, en plus.
Les deux ont gagné, gagné donc, voilà, c'est bon. Dans sa nouvelle équipe,
installé, hein,
il a gagné.
Saison, voilà.
Là, il y a peut-être un verrou qui va se lâcher, et peut-être que sur la fin de saison, il n'est pas si loin que ça, en plus, au classement.
Oui, pourquoi pas, hein. Faudra voir, mais il est... ça va jouer sur la régularité. Hein. Là, de toute façon, si on compte les quatre, comme je disais tout à l'heure...
Là, pour moi, les deux qui font la meilleure saison, c'est Raikkonen et c'est Vettel. C'est les deux qui sont là quasiment tout le temps sur le podium, qui sont voilà, sauf pépin ou problème, ils font les meilleurs résultats. Il y a eu un petit creux pour Raikkonen pendant quelques Grands Prix. Et voilà.
Au classement, eh bien au classement du SAV, c'est Vettel qui est devant, 153 points devant Alonso, 146 et égalité Raikkonen et Hamilton, 133. Pour les équipes, Ferrari 240, Red Bull 231, Mercedes 213. Mercedes 213, Ferrari Lotus 191. Dans l'autre classement, alors Vettel prend un peu large, mais en même temps ça se resserre. Vettel à 172 points, Raikkonen 134, Alonso 133, Hamilton 124. Ça se resserre derrière.
Ça se resserre, mais derrière. Loin.
Et Vettel avait 34 points d'avance sur Alonso, et là il en a 38 sur Raikkonen. Donc il a augmenté son avance, et c'est ça qu'il joue. S'il est toujours sur
là,
le podium,
il peut commencer, Vettel, ouais. Mais en même temps, 38 points, bon si lui, jamais bon. Il fait un truc genre comme en Grande-Bretagne, ça peut vite se renverser.
Oui, voilà, un blanc, ouais.
Ce qui est bien, c'est qu'ils sont déjà en train de se ménager cette marge de sécurité. Quand on sait la fiabilité des Red Bull, surtout en fin de saison, ces dernières années qui ont toujours fait un peu défaut à la Red Bull, voilà, c'est toujours bien d'avoir ce petit coussin d'avance.
Mercedes aussi, la fiabilité, faut faire gaffe, parce que du coup, Rosberg, il a abandonné là aussi.
Oui, il a abandonné, il casse un moteur.
Et donc, du coup,
visiblement, chez Mercedes, Hamilton, ils sont déjà au cinquième moteur. Ouais. Il en reste 3 pour la fin de saison.
Et puis il y a des gros circuits qui arrivent. Ouais. Hein. C'est pas Monza, Japon.
Ouais. Bah, Monza, déjà tu montes un moteur 9. Je crois que Spa, certains montent aussi un moteur 9.
Et Japon aussi, sûrement.
Japon,
ou un patron usé.
C'est pas sûr.
Ouais.
Mais Corée, t'as aussi tendance. Voilà, il y a quand même des grands prix sur la fin de saison où il va falloir.
Brésil aussi.
Ouais, chez voilà. Les constructeurs, Red Bull 277 points. Mercedes. Et deuxième, 208 points. Ferrari 194, Lotus 183.
Ferrari, ouais. C'est quand même troisième.
Ah, mais là, Lotus est bien revenu. Hein.
Ils ont
bah, c'est parce que c'est Grosjean, il a que 49 points, c'est pour ça. Hein.
Ouais, c'est vrai que si tu compares Grosjean à Massa.
Sur les deux derniers Grands Prix, Lotus a repris 30 points quand même hein, sur Ferrari.
Ah, le Grand Prix de Belgique sera décisif.
Ça va donner de la tendance. Bon, après pour le.
Bah, il y aura eu, ouais, il y aura eu le mois de travail là. Enfin, même s'il y a des usines qui sont fermées, mais et puis il y aura eu les vrais retours des essais de Silverstone parce que voilà, ils ont essayé des pièces, ils ont essayé des trucs. Maintenant, est-ce qu'ils les ont vraiment tous utilisés au Hungaroring? Bah,
non. On voit bien. Mercedes, ça sert à rien parce que Mercedes, ils viennent de gagner, ils étaient même pas.
Alors... Oui, voilà.
C'est ça, c'est le pire. Mais bon.
Mais c'est d'ailleurs ça. C'est que Mercedes, faudra voir aussi sur le long terme. Parce que encore une fois, on peut parler des pneus, mais la Hongrie n'est pas un circuit hyper sollicitant pour les pneus. C'est peut-être ce qui a été Mercedes.
Alors, parce qu'on crée surtout pour la Mercedes comme problème, c'était la chaleur, pas l'abrasivité de la piste.
Oui, parce qu'en Angleterre, ça allait. Ah, c'était les anciens pneus aussi, mais bon, on verra. Mais de toute façon, à Spa, s'il pleut, on sera encore dans le flou. Hein.
C'est bien beaucoup. Le « à Spa, s'il pleut ».
Ah bah, s'il pleut, bah, l'année dernière il pleuvait pas, il y a 2 ans il pleuvait
pas. Il
n'y
a pas plu le vendredi l'année dernière.
Ah non, mais je compte te grandir. Sinon, c'est pas la pluie. C'est toujours une séance qui est sous la pluie, ça c'est sûr.
Passons au fait marquant de la course. Nous vous avions demandé il y a 3 semaines, déjà, c'était déjà 3 semaines, quel était le fait marquant du Grand Prix d'Allemagne. Vous avez été 79 à voter, merci à vous. 3e, 8 votes, Hülkenberg dans les points, le chant du cygne de Sauber. C'est peut-être la faute d'orthographe qui a traumatisé les gens.
Mais c'était écrit quoi? Je me rappelle plus.
C'était le chant du cygne, mais j'ai marqué cygne, S-I-G-N-E.
Ah oui.
Ouais. 2e, 24 votes, Vettel, enfin vainqueur à domicile. Comme quoi, tu vois, hein, quand je fais des trucs comme ça, ça marche pas toujours.
Ouais.
Et premier, 47 votes, 59,49%, Marussia invente la F1 télécommandée.
Mais j'ai voté ça, je crois.
C'est pas à toi, Dino ?
Bah ouais, c'est moi qui fais le, c'est moi qui ai le plus mauvais score, donc. J'hésite.
Plein de trucs.
Ouais, ça, c'est. J'hésite entre Hamilton et Grosjean. Mais Grosjean, si je dis un truc sur Grosjean, il faut que je réussisse à trouver une formule.
C'est dur, Grosjean, de trouver.
Qui permette, oui, c'est ça, c'est
de tout temps trouver.
Voilà, de réunir à la fois les votes des anti et des pro Grosjean. Alors je réfléchis.
Une occasion manquée.
Ouais. Non, je vais rester sur Hamilton quand même. Hamilton, 2 points. La première en gris. Point de suspension. Enfin, chez Mercedes. Alors, tu peux peut-être rajouter le mot victoire pour éviter tout compromis. Enfin, tout. Hamilton, la première victoire en gris.
Enfin, chez Mercedes.
Après, c'est à toi, Shinji, je crois.
Oui. Je vais laisser Grosjean à Steve parce qu'il avait un truc et que moi-même, ouais, j'ai mal à trouver un truc. Enfin, le premier point de Williams.
Ah, on fait tendance, ça c'est un vrai fait marquant de la saison même.
Bah ouais, c'est pour ça.
Williams marque un point.
Un point.
Ouh. Wow. Sortez le champagne.
Hein, Steve.
Grosjean, virgule, l'occasion manquée, point d'interrogation et point d'exclamation.
Cette semaine, nous vous demandons quel est le fait marquant du Grand Prix de Hongrie. Vous aurez le choix entre, enfin, le premier point de Williams, Grosjean, l'occasion manquée. Je sais pas si je dois la jouer étonnée ou...
Ah bah c'est...
Hein. Et...
À la discrétion.
Hamilton, la première victoire en Hongrie, enfin chez Mercedes. On va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Et tu sais quoi ? On n'a pas eu de réponse.
On n'a pas eu de réponse ?
Non, je déconne. Ah. C'était tellement facile.
Alors attention, cette semaine, on joue pour du lourd.
Oui, pour une casquette en rousseau.
Ah non, moi j'ai un grand prix d'avance, je te dis.
Oui, oui.
Moi, je suis celui qui doit choisir la question, donc il faut que je trouve une question qui soit bien. Oui. C'est le prochain cadeau.
On peut dire quel est le cadeau de, pour la prochaine.
Non, on va leur laisser la surprise.
Ah,
hein. Enfin, on leur dira un peu plus tard, là, dans 3 minutes. Quand on aura donné la réponse déjà de cette question. Qui était, rappelle-nous cette question d'ailleurs, Cindy.
Sur quel circuit a lieu le Grand Prix de Hongrie ? Était-ce le Hungaroring ou était-ce Suzuka ? 10, il n'y avait pas de panneau Fuji TV ce week-end.
Alors Chézy, je crois que je vais prendre un risque. Et je crois que je vais dire la réponse Suzuka quand même. Non, je vais rester sur mon intuition. Je pense qu'il y a un lien entre la Hongrie et le Hungaroring, donc je dirais le Hungaroring.
Eh bien, c'est la bonne réponse.
Ah, c'était Suzuka, non ?
C'est la bonne réponse.
Oh, j'ai eu peur.
Et sache que j'ai même eu une précision, hein, quelqu'un qui est loin, hein, puisqu'il sait déjà qu'en 2017, la piste sera renommée le Dino Roring.
Le Dino Roring.
Oui, à ton hommage.
Ah, merci. Sincèrement, je rêverais un jour que le Hungaroring se renomme le Dino Roring. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres candidats avant, mais...
Est-ce que tu es prêt, Dino ? Parce que là, on en a des réponses. On en a 10.
Oh la vache.
Ah bah oui, hein, oui.
Alors, ce qu'on va faire, c'est cette semaine, je vais te dire très vite si c'est bon ou pas.
Ça, tu feras une première sélection. Première question. Quel pilote de F1 avait un homonyme à bord de l'Airbus A380 lors de son premier vol en 2005?
Ouais.
Deuxième question.
Ça pue, la question, c'est « Ah, ils ont fait Star Trek, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ah, ils ont...
Quel chiffre obtient-on quand on additionne les années où Jackie X a remporté les 24 heures du Mans et où il a été vice-champion du monde de Formule 1 ? Donc, les années où il a été vice-champion, les années où il a été vainqueur de F1, aux 24 heures du Mans...
Pas les deux en même temps.
Quoi ?
Pas les deux en même temps.
Si, il y a aussi en même temps. Mais dans ce cas-là, c'est une fois.
D'accord.
On compte une fois l'année, parce que c'est l'année.
Ok, d'accord.
On additionne toutes ces années et combien ça fait ?
Ok.
Ensuite.
C'est pas encore cool, foudre.
Un grand prix à rechercher. Alors qu'il était solide leader de grand prix avec une confortable avance, David Coulthard, au volant de sa Williams Renault, pénètre au 20e tour dans les stands pour son premier pit stop. Le virage est un peu... Et malgré sa vitesse réduite, sa voiture s'ouvre et l'avant de la monoplace percute le mur et des stands, ce qui détruit la suspension avant gauche et contraint David à l'abandon. Comme quoi, Lewis n'avait rien inventé au Grand Prix de Chine. De quel grand prix s'agit-il ? Ensuite,
Dino,
oui.
Sur quel circuit aura lieu le Grand Prix de Belgique?
C'est pas ça le concours, hein.
Non mais, honnêtement, je sais pourquoi, quand tu...
Dis-nous, c'est toi qui envoyais la question.
Le pire, c'est ce qui est terrible, et ça va être dommage pour lui, c'est que je crois savoir pourquoi il a posé cette question. Et je crois que tu vois, t'es en train de gagner le droit d'avoir le droit de question. Je crois que t'as tenté de contourner le règlement tellement fort, tellement peu discrètement, que je crois que tu vas tout gagner.
Passons à la suite. Ce week-end a eu lieu le Grand Prix de Hongrie, et certains pilotes seront passés par la salle de conférence. Mais où est donc située cette fameuse salle où tous les pilotes sont ravis d'aller? En fait, exactement, c'est le nom du bâtiment, voire même son étage. Où est la salle de... Un truc pour les journalistes. Ensuite, parmi tous les noms de famille de pilotes ayant participé à un Grand Prix, quelle lettre ne trouve pas de nom associé? Dans le sens où bah, on a des pilotes qui, dont les initiales sont de A à Z, hein, mais il y a une lettre où il n'y a pas de pilote.
C'est trop facile avec Stat F1. Je donne déjà les points.
C'est une question Stat F1. Ensuite, à un moment de sa carrière, peut-on parler de carrière en Grand Prix? Je pense qu'on peut, d'une certaine façon, son histoire.
Oui.
Le circuit de Spa a été remplacé pour les courses de F1 car jugé trop dangereux. Par quel circuit a-t-il été remplacé pour organiser maintenant le Grand Prix de Belgique?
Ouais.
Ensuite, c'est l'été, il fait chaud, alors quoi de plus rafraîchissant qu'une bière? Alors pourquoi pas prendre une blanche de Francorchamps? Mais cette blanche est plus connue sous un autre nom en Belgique. Quel est ce nom?
Ah, voilà la question. Maman, c'est les Belges, par contre. C'est pas encore
et enfin,
tout à fait devant la question sur quel Grand Prix, sur quel circuit se tiendra le prochain Grand Prix de Belgique.
Et enfin, quelle est la distance moyenne parcourue durant un Grand Prix au cours de, la, de cette saison 2013? On parle uniquement des courses.
Quelle distance moyenne parcourue durant un Grand Prix?
En 2013. On arrondira le résultat au kilomètre.
Il n'y a que ça comme question.
10 questions quand même.
Oui, non mais en... Ouais. Alors je suis face à un dilemme. Parce qu'on va pas vous cacher qu'il y a un petit malin dont l'objectif était de participer à cette question-là pour se dire bon bah je vais avoir un ticket pour gagner le casse de Prost et puis je vais poser une question de merde qui sera pas sélectionnée comme ça je pourrais participer pour gagner le prochain cadeau qui se trouve être une maquette de la monoplace de Kimi Räikkönen de l'année dernière si je me trompe pas. Donc il y a quand même une question qui semble tellement simple que j'ai envie de me dire ça se trouve c'est lui derrière et juste pour le faire chier pour lui empêcher de participer et de remporter la maquette, j'ai bien envie de choisir
lui
cette
qui,
question-là.
Qui ne porte pas de casquette.
Oui, maintenant, il y a quand même un mois, il y a quand même un beau cadeau à gagner à la fin. Et comme, voilà, c'est quand même un beau cadeau en association, on l'a choisi exprès parce que c'était le Grand Prix de Belgique, je dirais la question sur la bière, la Belle de Francorchamps, là.
Très bien, et eh bien c'est Tom Dippy, enfin Tom Dispy, j'espère ne pas massacrer son pseudonyme, donc qui a posé la question, c'est l'été, il fait chaud, alors quoi de plus rafraîchissant qu'une bière? Alors pourquoi pas prendre une blanche de Francorchamps, mais cette blanche est plus connue sous un autre nom en Belgique. Donc voilà, il existe une bière qui s'appelle la blanche de Francorchamps, mais qui est connue sous un autre nom. Quel est ce nom? Qui est un peu étonnant, on va dire, quand on le... Oui, enfin, c'est bizarre, enfin c'est... Si vous cherchez, vous comprendrez. Donc Tom Dippy, tu gagnes la casquette au rosso. Donc je t'enverrai dans les prochains jours un petit mail pour que tu m'envoies tes coordonnées, que je recommunique à Steph Corr qui passera commande chez Toro Rosso. Et a priori chez Red Bull les commandes ça va, c'est pas trop long.
Vas-y balance les équipes qui ont du mal à livrer. C'est qui
McLaren apparemment, hein Steve.
Oui.
Oui. T'attends toujours quoi?
Le casque.
Le casque de Button.
Ah ouais, d'accord.
Donc avec un peu de choses, Tom Dippy, tu pourras avoir ta casquette avant cet hiver.
Avant cet hiver aussi, d'ailleurs.
Alors les autres questions. Alors l'homonyme à bord de l'Airbus A380, eh bien lors de son premier vol inaugural, il y avait un Fernando Alonso.
Oui, je le savais ça, je me rappelle.
Voilà, un pilote, un homonyme, pilote. Monsieur Fernando Alonso. Alors les années de Jackie X, donc les années où il a été vice-champion, c'est 69 et 70, et les 24 heures du Mans, c'est 69, il y avait le double, 75, 76, 77, 80 et 82. Ce qui faisait un score de 13 830. Il avait même mis les marques. Il y a Brabham et Ferrari en F1 et Ford, Mirage et Porsche au Mans. Ensuite, le grand prix qu'il fallait trouver, c'était le grand prix d'Adélaïde en 95. Celui où donc David Coulthard s'est lardé en rentrant au stand.
C'est tellement facile aussi à Adélaïde de se larder en stand.
La oui. question sur quel circuit aura lieu le grand prix de Belgique, eh bien, c'était bien Adelin.
Et c'est Adelin qui voulait gruger, je
dis. Il a pas voulu gruger, il a demandé une précision dans le règlement.
Ouais, c'est un petit grugeur. T'es un petit grugeur, Adelin. Bon, t'as de la chance, tu pourras participer, mais quand même.
Quentin nous avait posé la question sur où est la salle de conférence. Eh bien, le nom, c'est tout bêtement la Tower Building, donc l'immeuble tour, au deuxième étage. Alors, Totor nous avait posé la question sur quelle lettre n'a pas de nom associé. C'est la lettre X. Il y a un pilote en cul qui est...
Sauf pour Jackie X.
Oui. Mais il y a Jackie X.
Non, c'est pas... Voilà, non. Hein.
Ça compte pas.
Pour l'instant, il n'y a pas de X. Voilà. Donc, à moins qu'un jour, on ait un Xabilton, un Xalonzo, un Xerox.
Xerox.
Avec l'arrivée de pilotes chinois, peut-être que...
Un Grosjean. Le plus gros genre.
Nicolas, donc, vous avez posé la question sur l'année où Kimi Raikkonen a été sacré champion du monde de F1. Mais évidemment, c'est en 2007.
Ah oui.
Oui, tu sais, avec Ferrari. C'est le dernier champion du monde chez Ferrari, n'oublie pas. Hein.
Ah, pendant un bon paquet de temps encore. Jusqu'à ce que Vettel arrive.
Gatlin nous avait posé la question sur les autres circuits belges qui avaient accueilli le Grand Prix de Belgique.
Il y a Zolder,
oui, il y a Zolder entre alors 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 et Nivelles.
Vous avez quand même remarqué que cette capacité que voilà, on est en Belgique, on a décidé, on va plus sur Spa, c'est trop dangereux.
On va à Zolder.
On va aller à Zolder. Et comme par hasard, ça s'arrête en 82.
Et le circuit de Nivelles aussi en 72 et 74.
Oui. Splendide circuit, sauf comme tous les circuits belges.
Oui, c'est pour ça que si vous vous séparez, on veut bien de vous. On veut récupérer vos circuits et vos bières. Oui.
Grand Prix de France à Spa.
Oh, le rêve.
Non, on appellera ça le Grand Prix de la province de Belgique. Ou encore mieux, le Grand Prix du département de Belgique.
Le Grand Prix des Dom-Toms.
Et donc, la distance moyenne des Grands Prix en 2013, est-ce que vous avez une idée?
Ouais, c'est...
Bah, 308.
Ça va être 300, mais il y a Monaco.
Voilà,
ah oui, il y a Monaco.
Ça va être 290, un truc dans le genre, non?
Oh non, bah,
c'est moins que ça.
300 tours ronds. Non, même pas.
C'est 2.
Ah, Monaco.
Oui, Monaco, c'est moins que ça.
265.
Bon. Non, mais en comptant Monaco, la moyenne, c'est 295.
Bah, ça doit être pratiquement 300.
C'est 302, en fait. Ça baisse pas 302. Tant que ça. Parce que comme les autres sont tous entre 305 et 310.
Un 305, c'est le minimum, hein, pour le, à part Monaco.
Bah, si on accepte Monaco, le plus c'est la Chine, 305. Et...
Mais ils prennent le nombre de tours qu'il y a après 305 pour faire la distance.
C'est-à-dire que c'est 305 révolus, mais on n'arrête pas la course au milieu du tour. Quoi. Et le plus long, hein, c'est la Malaisie, 310-408. Donc c'est pour ça que c'est toujours entre 305 et 310, parce que les circuits font 4-5 km en moyenne. Et donc on tombe sur 302, finalement. Monaco ne fait pas baisser tant que ça la moyenne.
Avec 20 courses.
Mais il y avait un lien avec le Spa, et je viens de m'en rendre compte, et c'était une bonne idée. Le Spa est le plus long circuit de l'année.
Oui. Eh bien, c'est bien. Donc, n'oubliez pas, vous aurez 3 semaines, et pour le Grand Prix de Spa.
Un mois,
c'est vrai. Pour le Grand Prix de Spa, c'est quand même une réplica de la voiture de Raikkonen 2012. J'avais l'échelle, mais je sais plus. Non, quand même pas.
Non, c'est un 43.
Ouais, je pense, oui, c'est du 1,43.
Oui, je pense. Oui. Non, c'est un 916. C'est un bouton de chemise dans la voiture de Kimi Raikkonen. Non, c'est un beau cadeau. Je crois même que c'est le plus beau cadeau en termes de prix. Je crois que c'est le plus beau cadeau. Même le mini casque de Jenson Button, il y avait un rabais.
Ouais, je sais.
C'est d'ailleurs pour ça que c'est loin à venir, c'est qu'il faut le temps qu'ils calculent le rabais.
Bien sûr. Oui.
Et donc on vous rappelle que les 9 qui ont participé, même toi Adelin, vous avez gagné un petit ticket pour le tirage au sort de fin de saison pour remporter le casque, une réplique du casque d'Alain Prost de 1993, l'année de son dernier sacre avec le fameux petit Sonic.
Voilà, vous allez devoir chercher sous quel autre nom est connue la blanche de Francorchamps. C'est magique en plus. De la bière belge. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver de mieux quand même comme question?
Ce que je crains, c'est qu'on ait des questions pour l'Italie soit qui portent sur la bière italienne. Et là,
c'est un peu plus chiant.
J'attends le Grand Prix de Colombie pour qu'on nous pose des questions sur la blanche de Colombie.
La semaine prochaine, il y aura un mag. Ce sera le dernier avant la pause. C'est bon, on fait pas grand chose cet été.
Non, on fait rien. Il est prévu à un moment donné qu'on fête notre anniversaire, mais on n'est même pas au courant. Donc. Elder, si
oui,
vous avez des infos.
On aimerait bien en avoir. Donc, si vous avez des questions, répondeurs, n'oubliez pas, vous avez le module audio sur le site savf1.fr ou bien par mail sur l'adresse répondeur@savf1.fr. Pour répondre au concours, hein, n'oubliez pas, l'adresse c'est concours@savf1.fr. Si vous souhaitez participer à un des prochains Grands Prix, et le prochain Grand Prix, ça sera donc la Belgique dans un mois.
Il faut d'abord vous armer de patience.
Est-ce qu'on a du monde pour la Belgique?
Alors, de mémoire, il me semble que Adelin avait posé, avait fait acte de candidature, mais Adelin étant déjà venu cette saison, si quelqu'un d'autre se présente et n'est jamais venu cette saison, il sera prioritaire. Voilà, c'est la règle de la maison. Donc, n'hésitez pas à être candidat. Pour l'Italie, il me semble aussi qu'on a peut-être un candidat, et on a aussi peut-être un candidat, lui, c'est quasiment sûr parce qu'on ne l'a jamais reçu.
Pour le Japon.
Pour le Japon. Voilà. Et donc voilà. Mais globalement, sur la fin de saison, il y a de la place. Donc n'hésitez pas à postuler.
Donc dans un mois, le Grand Prix de Belgique, vos pronostics. Moi, j'aimerais bien une victoire cette année.
Ouais. Je pense que Hamilton va enchaîner. Moi.
Fait-elle.
La Mercedes, elle marchait pas mal l'année dernière, je me rappelle plus.
Oui, elle marchait pas mal.
Mais la grille de départ était bizarre l'année dernière aussi. Hein. Puis la course avait été un peu décapitée aussi. Donc.
Oui, c'est vrai, oui.
Mais Schumacher avait bien fonctionné. Décapité, ouais.
Et Alonso aussi, presque.
Il manquait quelques pilotes, mais c'est vraiment un Espagnol, un Britannique, c'est pas non plus les plus importants. Quoi.
Les gars, oui. Ouf.
Il manquait Grosjean.
Non, mais les Mercedes, ce sera le test, mais je pense bien que ça va bien marcher, je pense, pour eux. Puis Red Bull, évidemment, et puis Lotus Ferrari par loin, j'espère. Ou devant, pour le faire. Non, mais s'il pleut, Alonso, il peut très bien la gagner. Hein.
Ah oui. Ah, là, s'il pleut, oui.
Voilà, s'il pleut. S'il pleut dimanche.
Il faut qu'il pleuve tout le week-end, en fait.
Oui, voilà, samedi après-midi, puis dimanche, en fait.
Alors, Steve, tu as préparé ton défi?
Oui.
Rappelle-nous le défi, Dino.
Il faut que Steve nous donne 7 choses à faire pour un total de 40 euros, soit le montant d'un abonnement à Canal+, un abonnement qu'il ne paye pas, on vous rappelle, puisqu'il préfère le pirater.
Non.
Ah, le pirate, c'est pas bien.
Je suis pas un pirate, 600 km de la mer, comment tu veux que je pirate? Alors, c'est parti. Alors, j'ai préparé 7 choses à faire pour améliorer votre week-end de Grand Prix.
Ah, c'est bien ça.
Alors, en numéro 1, vous téléchargez l'application gratuite F1 Livestream sur Android. Alors, je sais pas si elle marche sur chez les concurrents. Et vous avez les chronos.
Sincèrement, s'il y a des gens qui ont autre chose qu'Android, ils ne méritent pas d'avoir une application F1 gratuite.
Et donc, F1 Livestream, je l'ai sur ma tablette. On a tous les chronos comme le live timing du site de la F1. Et du coup, il y a le petit commentaire et tout. Ou au cas où si vous avez
mais est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu as les petits points qui tournent sur le circuit comme si c'était des Formule 1?
Ah non, il y a que les secteurs et commentaires. Ouais.
Ah, parce que sincèrement, tu regardes ton écran et quand tu regardes ton écran, tu regardes ta tablette et tu peux voir où se trouve le pilote. Sauf que tout fan de Formule 1, c'est déjà plus ou moins
ça vaut quand même pas les je sais pas combien d'euros qu'il faut payer.
Oui, voilà. Alors, en numéro 2, vous pouvez parier sur internet sur le vainqueur de la course que vous croirez qu'il gagnera. C'est pas une phrase française, mais on oublie.
Pour 9 euros, probable, là, de la course.
Vous pariez 9 euros sur votre pilote favori ou sur votre pilote que vous pensez voir gagner pour la course. Donc ça peut rapporter gros. Hein. Je pense qu'Hamilton, il était à 10 contre 1 dimanche matin. Donc ça peut rapporter. Ensuite, vous préparez une petite lettre papier à monsieur Jean Todt. Vous lui écrivez ce que vous pensez de la F1 en général. Vous l'envoyez 8 place de la Concorde 75008 Paris.
Et, ça fait 9, et donc ça
coûte. Ça coûte 1 euro avec l'enveloppe, une belle enveloppe pour la.
Bah, enfin, quand tu vois le timbre aujourd'hui, 1 euro, tu mets plus vraiment une belle enveloppe. Hein.
Bon, une enveloppe classique.
Allez, j'ai t'as grave un la euro. Lettre. T'as voilà. Grave la lettre et puis tu mets le timbre dessus, c'est bon.
Donc ensuite, vous allez chez votre marchand de journaux préféré et vous achetez un magazine de Formule 1 à 5 euros. Donc celui que vous voulez, hein, je fais pas de pub.
Ouais, je vous conseille d'acheter Autosport, tiens.
Ah oui,
j'ai acheté le dernier numéro et voilà. C'est assez intéressant. Ce qui est bien, c'est que ça parle d'autres sports, c'est pas que F1, il n'y a pas trop d'orthographe pour le moment, c'est bien.
c'est pas F1 main.
Non, non, c'est Autosport.
Oui, oui, bah oui.
Autosport, le magazine Autosport.
C'est mensuel, celui-là.
Voilà, c'est pas le magazine de F1 qui, enfin, on se comprend.
Ensuite.
Il fait une faute toutes les trois voyelles.
Ensuite, vous pouvez acheter un câble HDMI de 5 mètres pour relier votre ordinateur à votre télé au salon. Pour voir la télé en grand.
Oui.
Et ça marche. Je peux dire que c'est bien. Voilà, donc ça, donc j'ai trouvé le mien à 5 euros, voilà. On rajoute 5 euros. Ensuite, il reste deux choses. Vous pouvez acheter une miniature de la voiture de votre pilote préféré. Alors, j'ai compté une vingtaine d'euros, hein. Ça dépend de votre...
Ah, c'est vraiment miniature.
Si vous trouvez... Ah, ben, en cherchant un peu sur Internet, on trouve des prix pas mal. Surtout Button, c'est pas cher. Une miniature de Button. Ah, je sais pas. Non, mais ça va.
Button, il y a des soldes. Ne critique pas les prix des trucs de Button, c'est grâce à ça que tu es censé avoir un casque de Button.
Non, non, mais bon, voilà, comme moi j'ai une belle collecte. Et enfin, le dimanche après la course, vous votez pour votre top 10 sur Fan F1 et c'est gratuit. Ça vous donne votre avis sur la course et vous l'entendez dans cette géniale émission. Et donc au total, 40 euros.
Génial, génial.
Ouais,
ouais, c'est vrai, d'accord.
Il y a même des invités prestigieux.
Alors, bah écoute, on t'avait dit de venir.
Oui.
On te remercie d'accepter.
Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Podio, sur Podcast France, sur Facebook, sur Twitter avec le hashtag SAVF1, et vous pouvez trouver nos différents comptes Twitter sur la page d'accueil de SAVF1.fr. La F1 sur Internet, c'est sur...
SAVF1.com, bien sûr.
Vous êtes bien bon cette semaine, parce que le SAV de la F1, c'est...
Rock'n'roll.
Le Ritz des podcasts.
C'est pas mal, ça, rock'n'roll. Oui, ça, je peux bien se changer. Ouais. Merci, Steve, de nous avoir accompagnés ce soir.
Et ben, merci à vous pour votre émission, et puis pour toute votre bonne humeur qui nous fait du bien.
C'est vrai qu'on a sauvé des vies.
Ah, bah.
On a reçu des dizaines de mails de gens qui disaient on était au bord du suicide et tout, et grâce à vous, on tient. Quoi.
Donc,
ah, si on avait été là à l'époque de Schumacher, on aurait pu
peut-être,
sauver.
Peut-être,
oui. Je m'en veux, je dis. Toutes ces vies qu'on n'a pas sauvées.
C'était pas ta guerre.
C'était pas mes guerres.
Adrien Louet.
Donc on se retrouve la semaine prochaine, hein. Il y aura un dernier petit lag avant la pause, mais vous le savez, on va se quitter. Moi, je suis pas, moi je reviens de vacances, alors
moi j'y vais en vacances. Moi j'ai un mois de vacances.
Comme d'habitude, nous vous laissons sur ces quelques mots de Dino. Ciao.
Salut.
Salut.
Au revoir, Shinji. À bientôt. Donc voilà, Shinji me laisse seul. Voilà, je suis tout seul. Non, tu me laisses seul, Shinji. Tu dis pas, tu me laisses seul, s'il te plaît. Il faut que je sois avec mes auditeurs. Il faut que je sois en connexion avec eux pour qu'ils puissent comprendre le proverbe du jour. Qui est un proverbe hongrois, naturellement, et qui dit la chose suivante. La vieillesse ôte les jambes au cheval, mais ne l'empêche pas de hennir.